Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites vites. Alors Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez.
Oh Spivak, c'est ce qu'il a dit numéro 10. Les polas qui leur chiaient sur la gueule.
Bon alors celui-là, il touche plus un ballon. Hein. À la première occasion, tu lui prends la canne.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC, le podcast. À mes côtés dans ce studio, Johan et Aurélien. Comment ça va les mecs?
Eh ben ça va et toi?
Super, bah,
écoutez,
salut JB.
Écoutez, ça va très bien parce qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un invité que j'adore, Julien Cazard. Comment vas-tu?
Eh bien excellemment, ça fait du bien d'être accueilli comme ça.
Ah, on t'accueille mal en général?
Très mal, très mal. Dernièrement j'étais là au service des impôts. Et franchement, ils sont pas aussi sympas que vous.
C'est vrai, en même temps. Non, mais on en parlait en off avec Johan juste avant. On suit ce que tu fais depuis très longtemps.
Merci.
On te trouve très drôle, donc du coup, on est ravis de t'avoir avec nous.
Je suis ravi d'être là.
T'es encore mieux reçu qu'il y a 10 secondes, t'as vu?
Oui, oui, beaucoup mieux. Vous étiez en retard et pas de café. Donc je suis dit que c'est cette bande de charlots.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas?
Alors, bonjour, je m'appelle Julien Cazard. Je suis, comme on dit dans le jargon, humoriste, comédien, auteur, chroniqueur, tout ce qui peut ramener un peu d'oseille avec 2-3 blagues. Donc voilà, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé par le théâtre, l'impro, puis ensuite j'ai fait des sketchs sur l'actualité, des caméras cachées, puis aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'humour autour du football.
T'aimerais revenir au théâtre ou pas?
Mais c'est prévu.
Ah, c'est l'info que tu nous donnes?
Il y a une pièce qui est en préparation.
Ah, pas mal.
Rien à voir avec le sport. Pour le
coup. Ok, d'accord. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur le meilleur film abordant de près ou de loin le football. Coup de tête. Sorti en 1979, réalisé par Jean-Jacques Hano et écrit par Francis Weber, Coup de tête est un film mettant en vedette Patrick Devers dans une histoire qui nous propose de suivre le personnage de François Perrin, ailier de l'équipe de football de Trinquant, accusé à tort de viol. Suite à un concours de circonstances, ce dernier va être libéré de prison afin de jouer un match de Coupe de France, va en devenir le héros et va par la suite s'évertuer à se venger de tous ceux qui l'ont accusé à tort. Deuxième film de Jean-Jacques Hano après La victoire en chantant, qui lui a valu un Oscar du meilleur film étranger, pas mal pour un début de carrière, Coup de tête lui permet de s'inscrire durablement dans le paysage cinématographique français et offre au public un très bon film de football, ce qui est rare. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Dans quelles conditions l'avez-vous vu pour la première fois? Et je vais commencer avec Julien.
Alors moi, c'était le film du dimanche soir sur TF1. Mmh. C'était, je crois que c'était début des années 80.
La double séance.
Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment une claque parce que c'était pas le côté foot. C'était l'univers, l'atmosphère. C'est comme une Madeleine de Proust. C'est-à-dire que quand je le revois à chaque fois, ça me renvoie à cette époque. C'est toute une période, et on en discutera plus longuement. Mais pour moi, voilà, c'est-à-dire qu'il me renvoie directement à cette période. Ce film, c'est incroyable.
Moi, j'ai vu ce film pour la première fois il n'y a pas si longtemps, figure-toi. Ouais. C'était vraiment le film qu'on me conseillait de voir parce que je suis un gros fan de football et on me disait, attends, t'as pas vu Coup de tête? J'avais vu toutes les autres merdes à côté, mais pas Coup de tête alors que c'est le meilleur. Ouais. Et je l'ai vu, je me suis dit, allez, je le loue il y a 2 ans et j'ai adoré, évidemment. Et ce que j'ai aimé ce film aussi, c'est que ça traduit une époque qui est d'ailleurs bien, comment dirais-je, représenté par la musique de Pierre Bachelet, parce que c'est Pierre Bachelet qui fait la musique.
Incroyable.
Et en fait, quand on entend la musique avec les sifflotements comme ça, c'est toute une époque qui revient juste avec une musique. Quoi.
Ouais.
Et ce que j'aimais aussi, c'est que... Alors moi, j'ai commencé à suivre le football en 92. Ce que j'aimais en regardant ce film aussi, c'est que ce film pue le vrai football, entre guillemets.
Ah,
quoi.
Oui.
Vraiment, le football avec les tripes, avec la niaque, avec le cœur. Le football qui est quand même assez différent du football d'aujourd'hui, même si je continue de suivre. Et ça m'a plu de voir un film qui parle du football vrai, voilà. Même si ça parle pas que de football, ça parle que d'autres choses. Moi, je me souviens que j'avais été marqué aussi par le côté... finalement, ce film, c'est les petits contre les grands, quoi. C'est le petit club contre les grands clubs. C'est le petit type face aux puissants. Donc, ça parle de plein de choses. Il y a une sorte de double métaphore comme ça qui est assez cool. Donc, voilà, grand film de football. Johan.
Et moi, je l'ai vu à l'époque du collège, figure-toi. Parce que, comme vous savez, parfois, en fin d'année... les profs lâchent un peu prise et disent bon, bah, on va regarder des films, les enfants. Bon, ben nous, c'était notre prof de sport. Comme quoi, déjà, pendant toute l'année, on faisait pas grand chose, mais alors, en plus, là, il s'est dit on va mettre un film. Et c'était monsieur Archambault, figure-toi.
Ah, ouais.
Et donc, il nous avait.
Il
doit être mort, mais en tout cas, il nous a projeté ce film-là. Et ce dont je me souviens, bah, déjà, c'était l'esthétique du football. Moi, on a commencé à s'intéresser au foot à peu près à la même époque. Et l'esthétique des maillots, de verre aussi, avec sa moustache. Alors, ça se voit pas aujourd'hui. Mais ça m'avait vachement inspiré au niveau du look, ce qui fait que dans ma fin d'adolescence, début de vie de jeune adulte, j'avais un peu la coupe à la Devers et la moustache.
Bon, c'est vrai ça, je m'en souviens, je suis témoin.
Aujourd'hui ça s'est gâté, mais dans tous les cas, dans tous les cas j'aimais beaucoup son look.
T'as gardé la moustache, c'est bien.
Ouais, exactement, et je l'ai revu pour l'occasion, là, pour me remettre un petit peu dans le bain, et je l'ai vu sur Amazon Prime, tranquille, en mangeant des saucisses.
2,99€.
Exactement. Ouais,
ouais. Prix très raisonnable pour revoir un film.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire des notes de frais? Parce que ça m'a quand même coûté 3€.
Ouais. Mec, on t'offre pas un café alors ton film.
Aurélien. Non, mais si tu veux, il y a des madeleines et des bouteilles d'eau, Julien. T'en as faim
ou
pas?
C'est plus décevant qu'un café. Moi, il fait juste moins 15, j'ai froid. Ouais.
On tourne dans un bunker. Aurélien.
Moi, c'est un peu comme Julien, je pense. Je l'ai vu à l'époque de quand ça passait à la télé, quoi. Et que j'étais à fond dans ce délire de la séance. Moi, c'était le mardi soir.
Parce que il y avait le film du mardi soir.
J'avais le droit de regarder le mardi soir à la télé parce que le lendemain, il n'y avait pas cours.
Alors, c'était quand deux films, sinon rien? Dimanche ou mardi?
C'était dimanche soir, je crois.
Okay.
Tu sais, il y avait Tintin. Je me rappelle.
Quand tu fais la musique, je me rappelle beaucoup.
Ah, très bien. Et le mardi soir, des fois, il y avait un film avec Devers et tout, avec Depardieu. On a plus le droit de dire Depardieu maintenant. Et Devers, je me rappelle de mélanger un peu les films, par contre. Parce qu'il y avait un peu toujours la même ambiance, la même époque. Et moi, à l'époque, le foot, je comprenais que dalle. Ça n'a pas trop changé depuis, mais quand même, je mélange un peu avec Série Noire, des personnages un peu comme ça, où des fois, il était justement le mec un peu outcast, un peu justement, comme tu disais, qui se bat contre les grands et tout. Et ça m'a fait plus aimer le football. Et bien sûr, la musique, en effet. Que j'écoute encore.
La musique est géniale. Quand même Pierre Bachelet, pour faire une parenthèse, à qui on doit aussi les bronzés fonds du ski.
Ouais.
Franchement, derrière Cosma et Delru, je le mettrai en 3. C'est le Bill Conti.
Non, mais c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Ah
c'est
bah
vrai.
Oui, trop attends, c'est énorme.
Julien, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué plus qu'une autre dans Coup de tête?
C'est dingue parce qu'il y en a tellement. J'adore la scène du dîner où il règle ses comptes. C'est génial parce que là, il y a vraiment toute la petitesse des gens, tout ce moment-là, où ils sont tous là, à table, à essayer de le célébrer, sauf que lui, à ce moment-là, alors qu'on pense qu'il va faire un discours pour dire qu'il est content d'être là, et il est dézingue les uns après les autres, comme c'est à la limite de 12 hommes en colère, quoi. C'était vraiment un règlement de compte où il va tous les faire flipper, quoi. Et ce qui va créer après toute l'angoisse de chacun, d'avoir de la vengeance de Vier qui ne va rien faire, qui va juste passer devant chez eux, elle les regardait flipper, quoi. Et donc cette scène, je l'aime bien. Mais après, il y en a tellement, en fait.
Non, mais c'est vrai, je l'adore cette scène aussi parce que, alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est une scène où il dîne avec des gens qui l'ont complètement mis à terre quelques jours auparavant. Et là, d'un coup, vu que c'est devenu le héros du match et qu'il a mis un doublé en Coupe de France, bah, finalement, ça devient une tablée de suceurs, quoi. Il y a des suceurs autour de lui qui sont là.
Ils veulent les autographes et tout.
Voilà.
Même le flic qu'il a mis en cabane... qui lui mettait les torgnoles et là, il est là, il lui demande de dédicacer le ballon pour son fils. En fait, il y a tellement. En fait, tout est culte. Et aussi, c'est la force de Weber. On en parlera. Je pense que Weber, t'es quand même un génie. C'est-à-dire que le nombre de films, de scénarios et dialogues de Weber où tu te dis que chaque scène, que ce soit le dîner de con ou autre, chaque scène, c'est du caviar. Tu te dis, c'est incroyable. Tu peux les revoir éternellement.
C'est vrai ce que tu dis, Julien, surtout que j'ai lu en m'enseignant sur le film qu'à la base, Jean-Jacques Cano voulait vraiment en faire une satire sociale, un truc très sérieux. Et finalement, les producteurs lui ont mis dans les pattes Francis Weber. Ça s'est très bien passé entre les deux, l'alchimie. Et Weber lui a dit, il faut quand même mettre un peu de comédie dedans parce que c'est quand même un truc très populaire, etc. Et du coup, il y a pas mal de scènes marrantes. Et moi, une de mes scènes préférées, c'est celle du vestiaire à la mi-temps du match où il commence à déchirer les billets en deux. Et puis là, il y a plein de supporters qui arrivent de la ville. qui disent aux joueurs comme ça, si vous gagnez, je vous offre une machine à laver, toi, machin et tout. Il y a une sorte d'effervescence autour de cette scène, je l'adore. Pour moi, c'est une scène aussi qui pue le football amateur, quoi. J'adore cette scène. Jeanne, il y a une scène qui t'a marqué plus que
d'autres. C'est pas une scène de foot, étonnamment, mais c'est la scène du café quand sa maîtresse l'appelle, etc.
Ah oui.
Et il y a un côté genre, allez, Pouilleux, dégage, parce que tout le monde le sort du bar parce qu'il a osé. Je crois frapper, enfin
oui,
bousculer
la star de l'équipe.
Exactement.
Berthier,
oui, qui est joué par Patrick Fleurchem, qui est la voix de Michael Douglas.
Bon, voilà. Alors, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans ce film, c'est le film où il y a pratiquement que des doubleurs VF méga connus, parce qu'il y a aussi la doubleur voix de Robert De Niro et Mel Gibson.
Jack France.
Et il y a plein comme ça, si vous regardez, il y a plein de doubleurs français dans ce film.
De Julia Roberts.
C'est ça, exactement.
Mais il y a surtout un nombre de second rôles sublimes, comme. T'as aussi dans le jouet, c'est-à-dire que tu t'es dit, mais quand tu vois les seconds rôles, c'est les premiers rôles aujourd'hui. Quoi. C'est-à-dire
exactement.
Que chaque second rôle, le mec, c'est des gens, c'est extraordinaire. Quoi.
Et Jean Bouys qui joue le président aussi, qui est
Jean
hyper Bouys, marquant.
Qui parle toujours comme ça.
Exact, acteur que j'adorais. Qui m'avait marqué en tout cas à l'époque. Et non, cette scène m'avait marqué parce que, encore une fois, tu retrouvais toute la mesquinerie, genre, ah, t'as osé t'attaquer à la vedette, etc. Bon, et le retournement de situation, sans rien spoiler, quand même assez drôle après.
Donc, Aurélien.
Bah moi c'est un peu entre vos trois scènes là, j'ai pas de scène préférée dans le film, c'est vraiment les écritures des dialogues de Weber qui m'ont vraiment marqué au final, tu vois, genre vu que je suis pas un grand passionné de foot comme vous, ça m'a moins marqué dans l'ensemble, mais c'est vrai que j'ai bien aimé celle du vestiaire, je pense que globalement c'est une de celles que j'ai préférées.
Après excuse-moi, la force de ce film, c'est un peu comme Les Dents de la Mer. C'est parce que tu vois pas le requin et là, tu vois pas trop le foot.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est ça qui est génial. C'est qu'à aucun moment, on essaye de te vendre un film sur le foot. C'est-à-dire que c'est l'univers du foot. Et c'est
exactement.
Là, c'est pour ça qu'il est génial, ce film. C'est que, d'ailleurs, les scènes de, tu vois, les scènes de foot, quand tu connais le foot, les buts de Devers, il tire, c'est pire qu'Olivier Tom. Il tire, il fait 15 mètres. Bon, ça marque jamais. Mais en fait, c'est presque anecdotique, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est l'univers du foot. Et ce qui est génial, c'est que tu vois tout ce qu'il peut y avoir de minable. Parce que tu dis le petit contre le gros. Lui, c'est surtout, c'est-à-dire que c'est le. Moi, je trouve ce qui est génial, c'est de voir que même à un niveau minable, t'es au même, t'as les mêmes baronnies, la même caste, les mêmes échelles sociales qu'un club aujourd'hui de riches.
C'est-à-dire
que parce que le mec, il a l'entreprise, c'est un peu comme la Peugeot à une époque, Peugeot à Sochaux. C'est-à-dire que le mec qui avait l'entreprise, qui sponsorisait le club de foot, c'est-à-dire que tu bossais pour l'entreprise, tu jouais pour le club de foot, tout était lié.
Ouais.
Et donc le mec, c'était un baron, quoi. Et à la limite, en fait, le gars, il est pas multimillionnaire, mais ça suffit dans ce bled pour être le boss, en fait, et avoir un pouvoir de nuisance. Donc c'est génial.
Et il parle bien de cinéma, hein. Non,
bah, très très bien.
Oui. Bah non, mais attendez.
Après, j'ai tout donné là.
Il est fini pour tout l'épisode. Il n'y aura plus rien qui en sortira.
Il faut bien sur la durée.
Faut un café maintenant aussi là.
Alors, Johan, le film s'appelle Coup de tête. Et des coups de tête dans l'histoire du football, il y en a eu. Et pas forcément pour marquer des buts.
Oula, ça c'est pas une sacrée intro ça.
Oui, c'est un bon lancement.
Professionnel.
Alors, je sais pas pour vous, mais moi j'ai deux passions donc, dans la vie. Le foot, on en a parlé. Et le deuxième, c'est la bagarre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un peu les bagarres de l'histoire du foot qui m'ont le plus marqué. Pas forcément les coups de tête, parce que sinon je serais évidemment revenu pendant une heure sur le coup de boule de Zidane. Et bon, on a tout dit là-dessus. Donc, j'ai choisi de vous parler de mes bagarres préférées.
Je suis sûr que t'as quelques bagarres en tête dans l'histoire du foot.
Oui, il y a des bagarres sympas. Ouais.
Écoute, on va commencer par un match que moi j'ai adoré, puisque c'est un OM PSG de la saison 99-2000, en plein cœur du mois de février. Donc j'ai à ce moment-là 17 ans, et je suis au lycée à Claude Bernard à Paris. Et figurez-vous que le lycée Claude Bernard, c'est pile en face de quoi ?
Du Parc des Princes,
je connais, j'ai un ami qui est prof là-bas.
Et autant vous dire que moi, qui venais d'arriver du sud, de mon sud natal, qui était à Paris depuis seulement quelques mois...
Parce que c'est un gros supporter de l'OM, Johan, attention.
C'est pas grave.
Oui, il faut bien que j'ai quelques qualités. et me retrouver ici, c'était plutôt cocasse, parce que j'étais dans un territoire hostile, et territoire hostile qui s'était concrétisé un jour où j'étais arrivé avec mon maillot Ravanelli. À l'école.
Aïe, très mauvais choix.
Et effectivement, très mauvais choix. Bon, pour revenir à ce match-là, effectivement, il y avait Jacques Abardonado, Sébastien Pérez et Patrick Blondeau d'un côté.
Les intellos.
Nicolas Laspal, Laurent Leroy de l'autre. Alors, on sait déjà quel camp choisir, c'est une bagarre générale.
Oui. Pas Nicolas Laspal et Laurent Leroy, ça c'est ça.
Et c'est peut-être ça qui a décomplexé justement Jérôme Leroy au moment de répondre à la provocation franchement assez ridicule de son homonyme et attaquant parisien, Laurent Leroy, qui s'est jeté sur lui suite à un tacle assez dégueulasse.
Ouais, dans mes souvenirs, c'était Jérôme Leroy qui avait été ridicule dans
cette
histoire.
Je pense
mais...
pas.
En tout cas, dans mon souvenir, c'était deux pauvres types. C'était au bord de la touche, là. C'était minable, ils ont pris deux rouges, c'est ça ?
Exactement.
Effectivement, puisque
enfin, général... Laurent Leroy a pris un rouge alors qu'il a donné aucune droite. Quoi.
Bah, il a
essayé, mais il peut pas.
Les mains étaient trop courtes, c'était impossible. Donc là, bim, bagarre générale, expulsion des deux joueurs, puis victoire, ou alors plutôt massacre des Parisiens. C'est pour ça que ce match me tient à cœur, puisque les Parisiens s'effondrent après ce fait de match, puisqu'après avoir mené 1-0, ils en prennent 4 dans la musette et puis ils repartent à la maison. Alors, la queue entre les jambes.
Figure-toi que c'est de mémoire de supporter parisien, c'est le PSGOM qui m'a le plus traumatisé.
Est-ce qu'il y a il y a pas un but d'Abardonado assez dégueulasse?
Exactement.
Abardonado, oui, oui. Maurice, Pérez, enlève sa chaussure et tout.
Je crois qu'il y a Bakayoko.
Non, Bakayoko, il marche pas. Il marque
on
pas.
On peut pas être humilié à ce point. Non, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que t'as été quand même obligé pour trouver cette victoire, aller très loin dans les années avant 2000. Donc
il faut quand même se rappeler qu'à ce moment-là, donc Marseille est 15e, le PSG est 3e.
Oui, non, j'en sais. Voilà. Est-ce qu'il y a un PSGOM qui t'a marqué plus qu'un autre au niveau défaite du PSG? Vraiment, qui t'a fait mal, quoi?
Ah non, mais cherche pas. Moi, c'est celui du match retour en 93. Parce que c'est le match du titre. On mène 1-0. Ils égalisent, je crois que c'est Voleur, je ne sais plus. Et puis
exactement.
Surtout, à un moment donné, tu as une espèce d'action improbable avec un centre d'Abeli Pelé et une tête d'en dehors de la surface, pleine balle de Boli qui va en pleine lucarne. Et là, tu dis oh merde, c'est pas pour nous. Quoi.
Et surtout que c'est la plus grande semaine de l'histoire de l'Olympique de Marseille parce qu'ils gagnent la Ligue des Champions une semaine auparavant.
À l'époque, on ne savait pas qu'ils avaient acheté les matchs. Mais ça, visiblement, c'est le principe du Truman Show. On fait comme si on ne le savait pas.
Donc première bagarre, très bien Johan. Deuxième bagarre.
C'est dans 2 minutes.
Et cette bagarre. Bon, je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais petit, je me suis toujours demandé qui était le plus fort entre Robocop et Terminator. Bon, et ben quand j'ai grandi, je me suis posé la même question, mais avec Marcelo Gallardo et Christophe Galtier.
Ah oui, mais sauf que ça, fallait avoir la lumière dans le couloir pour le savoir.
Et effectivement, c'est le 7 avril 2000 que j'allais avoir la réponse lors de la mi-temps du match opposant les Phocéens, dont Galtier était à l'époque entraîneur adjoint, aux hommes du Rocher où brille à ce moment-là le petit milieu argentin. Je t'ai pas perdu, Aurélien.
Non, je suis là.
Hein. Non, ça va.
Je suis.
Marseille, à ce moment-là, au bord de la D2, reçoit le leader monégasque dans un contexte suffocant. Et ce, avant même le coup d'envoi, puisque le capitaine, Patrick Blondeau, un poète, alors que les deux équipes patientent dans le tunnel menant à la pelouse, sort Marco Simone, ex-joueur du PSG de la file pour discuter, lui colle une bonne tarte dans la gueule et lui dit « Ce soir, tu fermes ta grande gueule, je veux pas te voir ».
Propos exact, c'est sur
propos exact. j'ai appelé Patrick. Okay. Donc autant vous dire qu'il y avait une bonne ambiance. 1-0 pour les Marseillais à la mi-temps, pardon, soit le meilleur moment pour mettre un coup de pression supplémentaire aux visiteurs et futurs champions de France. Marcelo Gallardo, qui a joué à fond la carte de la provocation pendant toute la première mi-temps, multipliant les dribbles, et les petits sourires mesquins, les olés jusqu'à un hijo de puta à Christophe Galtier, se fait bien vite rattraper par le col lors du retour des deux équipes dans les vestiaires. Suite à des énièmes provocations de l'Argentin, il se retrouve encerclé par des agents de sécurité, par Christophe Galtier, Peter Luxin, ou alors un joueur que j'adorais à ce moment-là, Ivan de la Peña. Une bagarre générale éclate, les coups de crampons dans la gueule fusent et Gallardo rentre au vestiaire la gueule en sang. Olé.
Une honte.
À noter que Tony Silva et Fabien Barthez, les deux gardiens monégasques, et Fabien Barthez était un ex-joueur marseillais, sont passés devant la bagarre, voyant très clairement Gallardo se faire défoncer. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben rien du tout. Ils sont restés sans
droit. Oh, écoute, ils se sont dit, ça chicane un peu, voilà. Puis Barthez, ils connaissaient, c'est des anciens copains.
Ils s'en foutaient. 6 mois de suspension pour Galtier et une victoire 4-2 des Marseillais, dont un doublé de mon idole, évidemment, Ibrahima Bakayoko, et un but exceptionnel de qui? De Cyril Pouget.
Mais c'est marrant parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'à chaque fois, pour gagner les matchs, Marseille doit défoncer les joueurs physiquement pour les intimider. Quoi.
Il faut savoir que même le match dont je parlais, Basile Boli a avoué plus tard qu'au départ, il y allait pleine balle pour taper la tête de Ricardo. Il a raté la tête, il a eu la balle. C'est vrai. Hein,
mais ouais, c'est pour ça que j'aime bien Marseille aussi.
Pas violent, les mecs. Hein.
Moi, j'aime bien ce côté un peu voyou, brigand. Enfin, c'est des mecs avec qui tu
parles. Patrick Blondeau, voyou?
Non, pas du tout.
Petite anecdote. Patrick Blondeau.
Attention, moi, je raffole d'anecdotes.
Patrick Blondeau. Pas trop voyou. Il faisait partie des gens qui portaient le cercueil de Francis Lebelge à son enterrement. Mais tout va bien. Ce sont des gens formidables.
T'as entendu, Johan, sur ton club, là?
Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien Marseille.
Par contre, attention, quand j'étais ado, je me souviens que j'étais assez frustré d'observer ça parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression qu'on se faisait piétiner par les Marseillais et j'en avais marre d'avoir des joueurs qui réagissaient pas, quoi, tu sais, qui étaient là, genre un peu tout mou. Quoi.
Et d'ailleurs, j'ai cherché parce que j'ai quand même essayé d'être le plus objectif possible et j'ai aucune trace de bagarre avec le PSG. Fin...
C'est vrai qu'il n'y en a pas des bagarres.
Parce que c'est des bouffons, quoi.
Ouais, allez.
Voilà. Très bien. Vous faites écraser à chaque fois.
Moi, je me déplace. Hein. Ouais. Je me déplace. J'ai pas de café. J'attends 10 minutes pour rien et en plus on me pisse dessus. Respectez-moi.
Bah, les dernières bagarres, Johan.
Exactement, dernière bagarre est peut-être un des moments les plus cultes de l'histoire du football puisque nous sommes le 25 janvier 1995 au Sellers Park à Londres lors du match opposant Crystal Palace aux visiteurs du jour, à savoir Manchester United. Il est environ 22h15 quand Eric Cantona, qui brille au sein des Red Devils, écope d'un carton rouge pour un énième accrochage plutôt viril avec un défenseur adverse. Le visage baissé, alors qu'il entame sous les sifflets du public sa longue marche en direction des vestiaires suite à son expulsion, Eric Cantona, maillot noir, numéro 7 dans le dos, connaît un coup de sang légendaire. Et là, il se jette, pied droit en avant, dans une cascade digne de Jean-Claude Van Damme en direction des tribunes, ciblant un supporter de Palace qui venait de le traiter d'enculé de bâtard de français.
Ah ouais, tiens.
Bon, ce qui est plutôt pas mal quand même.
Ce qui est plutôt sympathique.
Bon, franchement. Après l'avoir touché au torse, Cantona enchaîne avec un coup de poing, mais le supporter anglais, bien courageux, est déjà bien loin, quand le Red Devil est déjà rattrapé par un steward et Patrick Schmeichel, direction le vestiaire, 10 secondes de grâce.
Alors moi, je l'appelle Peter. Hein. Tu l'appelles Patrick, toi ?
J'ai dit quoi ?
Patrick.
J'ai dit Patrick ? Non, Peter.
Moi, je suis. Moi, comme je suis.
Patrick Schmeichel.
Oui, c'est à voir que ça peut marcher aussi.
Ton cousin, non, cousin.
Peter Schmeichel, effectivement. Direction le vestiaire. Donc, 10 secondes de grâce dont on se souvient tous. 10 secondes qui ont coûté cher au génie français, puisqu'il a été condamné, figurez-vous, à combien ? Bah, 40 000 livres d'amende, 120 heures de travaux collectifs et 7 mois de suspension, qui mettront d'ailleurs un terme à sa carrière en sélection française. 29 ans plus tard...
Est-ce que c'est vraiment la seule raison pour laquelle il a pu être rappelé en équipe de France ?
Bah parce ça n'a pas aidé. Hein. Tournait bien
ça
aussi.
Pas aidé, ça n'a pas aidé. Et puis, ah ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, il y a une équipe qui a commencé à marcher. Et quand il est revenu, bah, c'était pas sous n'importe quelle condition. C'est qu'on lui a dit, OK, tu joues, mais t'es neuf. Et de, bon, pour être technique, il y avait Zidane et Djorkaeff qui étaient les mecs qui montaient. OK, si tu viens, t'es neuf. Il a dit non, moi, je vais être.
Ah, c'est ça la raison ? Moi, dans mes souvenirs, j'avais un peu l'impression que c'était aussi parce qu'il voulait pas d'ego à la Ginola, à la Cantona. Il voulait vraiment des joueurs.
C'est lié.
Ouais. Non, mais oui, non, mais attention, Ginola et Papin étaient dégagés. Mais Cantona, il est allé le voir. Hein, il est allé le voir Manchester. Ah, okay. Il dit tu viens, mais tu viens, tu joues neuf. Il a dit non, moi, je joue plus neuf, moi, c'est fini.
Ah, je savais pas. Voilà. Ok, donc, cool, bonne info.
Et surtout, je crois que Cantona, à cette époque-là, était capitaine de l'équipe de France. Et donc, Deschamps a repris le brassard aussi. Enfin, l'équipe tournait bien. Le fameux match à la fois contre la Pologne, où Djorkaeff, tu sais, égalise avec le coup franc là,
qui est au
Parc des Princes. C'est... Et puis, la victoire en Roumanie aussi, qui avait été fondatrice pour l'équipe de France. Soit. 29 ans plus tard, Eric Cantona assure ne toujours rien regretter de son geste et confie même qu'il aurait voulu en faire plus. Dans une interview accordée à 442, il déclare « Faites attention avec mon imitation. Je ne l'ai pas frappé assez fort, j'aurais dû le frapper plus fort. »
Ok. Est-ce que vous pouvez me rappeler de natif de quelle ville, s'il vous plaît ?
Cantona ? Bah, oui. C'est Marseille.
Merci. Pas de question, monsieur le président. Le témoin est à vous.
C'est les Cayolles. C'est les Cayolles.
Vous pouvez me rappeler le mec qui a mis le coup de boule à Materazzi ? Il est né dans quelle ville, s'il vous plaît ?
Je crois que c'est.
Merci, j'ai pas l'autre question, monsieur le président. Patrick Blondeau. Non, mais tout va bien, hein. Attention.
Mais moi, j'aime bien. C'est l'esprit bouillonnant dans le sud.
Ah, ça bouillonne, hein.
Ça bouillonne.
En tout cas, je vous invite aussi à aller regarder une petite vidéo qui est sur YouTube et qui est plutôt sympa. C'est le retour à Old Trafford d'Eric Cantona.
Contre Liverpool.
Contre Liverpool, effectivement. Et c'est son premier match, retour de suspension. Et genre, le mec, il pue le charisme. Quoi. Tu vois,
et je crois qu'il marque sur Péno, non ?
Il marque sur Péno, il fait une passe D qui est plutôt pas mal. Et ouais, il pue le charisme. Genre, lui, quand il commande un truc au café, on le sert direct.
Tiens, Julien, est-ce que quand tu commandes un truc au café, on te voit ? Genre, tu lèves la main et le serveur, il te voit tout de suite.
J'ai commandé 5 cafés ici, j'en ai toujours pas. Donc, ne parle pas de ça, reviens pas dessus. Et c'est incroyable, ça, le mec, il me provoque. Il me parle de café, alors j'essaye d'oublier que j'en ai pas vu.
Et pour l'anecdote, je suis tellement fan d'Eric Cantona que j'ai son maillot encadré dans mon salon. Et autant vous dire que les femmes en sont folles.
Bon, enfin bon, c'est une honte, tu es déjà allé chez lui, il a le maillot de Cantona dans un cadre, mais le maillot il tombe un peu. Donc, on voit le revers de la feuille où il y a marqué Conforama derrière. c'est une horreur.
Ouais, mais c'est naturel.
Oui, c'est vrai. Alors, on est dans un podcast ciné, on parle de foot. Du coup, je vais vous faire un top des joueurs de foot qui se sont essayés à la comédie. Julien, on va voir si t'es calé sur ce sujet, à savoir joueur de foot. Aïe, 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 oui, effectivement, aïe, comme tu dis. Parce qu'à la 10e place, on a un joueur italien, Davide Lovinella, joueur de série C italienne, qui a arrêté sa carrière afin de devenir acteur de film X. Il a notamment joué avec Rocco Siffredi. Dans ce milieu, c'est comme jouer avec Messi, donc bravo à lui.
Ouais, c'est chaud. Bon,
oui, voilà. Donc, il a arrêté.
Et encore, Messi peut te faire la passe, à lui.
Il a joué à la Perugia, puis il a arrêté pour une carrière.
J'ai pas entendu parler de lui. Je regarde pas assez les films porno avec Rocco. Alors que j'en regarde, hein, mais pas assez.
Ah, mais écoute. À la 9e place, Franck Leboeuf, figurez-vous, qui, mine de rien, enchaîne les pièces de théâtre. Je peux citer entre autres Ernie Fiscal, Ma belle-mère, mon ex et moi, Drôle de campagne ou encore Boeing Boeing. Boeing Boeing, c'est pas une pièce qui est jouée.
J'ai épousé ma fourchette et compagnie, tous les spectacles d'Avignon. Attention, Franck Leboeuf a joué dans un film oscarisé.
Mais oui, c'est vrai ça.
Elisabeth.
Non, le film sur Stephen Hawking, je crois.
Oui, exactement.
Ah, oui, exactement. Ouais,
une fabuleuse histoire du temps, je crois.
Ouais. Et je crois qu'il joue un physicien en arrière-plan.
Mais laisse tomber, personne n'y croit, il a une blouse blanche. Tu sais pas s'il est ambulancier, s'il est docteur, s'il est malade, enfin bref.
Brocardier.
Ouais, personne n'y croit.
À la 8e place, on a David Ginola qui s'est essayé à la comédie avec entre autres le rôle d'une crevette dans Nemo, quand même, c'est pas mal.
Bien sûr.
Il double une crevette
dans l'aquarium.
Exactement, bravo.
Absolument.
Julien, on a aussi à la 7e place. Alors, est-ce que vous connaissez le joueur Ally McCoy? Vous vous souvenez de ce
joueur? Bien sûr, c'était le meilleur buteur européen pendant des années parce qu'au championnat d'Écosse, il mettait 40 buts par match.
Exactement.
Avec les Glasgow Rangers.
Parce qu'en fait, en Écosse, il n'y avait tellement pas de grands clubs que souvent, il y avait un joueur aussi des Glasgow qui s'appelait Marco Negri, comme ça, un Italien qui marquait 40 buts sur 40 buts. Et donc, effectivement, il marquait beaucoup de buts et c'était le buteur des Rangers. Il a joué dans un film en 2000 avec Robert Duvall et Michael Keaton, un bon rôle où il joue un joueur d'Arsenal. Donc bravo à lui parce qu'il a vraiment donné la réplique à Duval et à Keaton. C'est plutôt pas mal.
C'est la classe.
Bien joué à lui. Sixième place, on a David Beckham, forcément, qui a joué dans Gaulle avec pas mal d'acteurs. Parce que je crois qu'il y a aussi Zidane dans Gaulle. Enfin, il y a pas mal de guests du Real Madrid.
Et il fait une apparition dans Jacob Beckham à la fin, à l'aéroport.
Ah, celui-là, j'ai pas. Ah, il a fait une apparition.
Ah, ok, je crois,
j'ai pas vu celui-là.
C'est ça qui est génial.
Mais il a joué dans le Roi Arthur où il était grimé en soldat d'époque.
Ouais.
Et c'est plutôt pas mal. Cinquième place, et c'est la grande surprise de ce classement. J'avais hâte de vous en parler parce qu'à mon avis, je vais aller vous chercher sur cette info. Vous vous souvenez de l'ancien attaquant de Liverpool, Stan Collymore?
Bien sûr.
Qui était en duo avec Robbie Fowler.
Bien sûr.
Et bien, Stan Collymore a eu un rôle dans la suite de Basic Instinct. Il a même une scène de baise avec Sharon Stone dans le film.
Quoi? Mais non!
C'est pas incroyable ça?
Bah, je l'ai pas reconnu.
Et ben, dans Basic Instinct 2, il y a une scène dans la voiture, il commence à baiser au volant et tout, et c'est Stan Collymore. C'est quand même assez fou, non?
J'aimais bien ce joueur.
Ouais, c'est vrai qu'il était pas mal. Il nous avait fait un peu mal en 97, demi-finale absolument. À la quatrième place, Pelé, forcément, grâce à son rôle dans À nous la victoire de John
Magnifique.
Huston, dans lequel il joue avec Sylvester Stallone, entre autres. On arrive.
Film culte, hein, les mecs, ils peuvent soit tenter de gagner contre les Allemands, soit s'échapper. Ils préfèrent finir le match.
C'était pas une histoire vraie, ça?
Ah bah, si, comme Fargo.
À la troisième place, qui méritait pour moi la première, Dominique Rocheteau, puisqu'il joue dans Le Garçu de Maurice Pialat, aux côtés de Depardieu. Et il joue plutôt pas mal, d'ailleurs. J'ai vu Le Garçu pour la première fois il y a 2 ans, et il est assez bon.
Oui, parce qu'il joue un peu rien. Oui,
c'est ça.
Et comme c'est un mec très taiseux, c'est un peu l'arnaque des mecs taiseux. Il est profond. Non, il n'y a rien.
Il est juste B, en fait.
Ouais.
À la deuxième place, Cantona, qui a quand même réussi sa reconversion, qu'on aime ou pas son jeu d'acteur. Bon, voilà, il a joué dans pas mal.
Nul de... Mais c'est la... Ah non, alors me lance pas sur Cantona, non, c'est mais... l'acteur le plus nul d'Europe.
Mais justement, je viens de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Ouais.
Mais il a quand même joué dans un Ken Loach. C'est plutôt pas mal de
C'est comme si moi j'avais réussi à avoir un contrat d'un an au Real Madrid.
Moi, je suis pas vraiment fan de son jeu d'acteur. Je trouve qu'il est un
peu. Ah bah, on crée plus que ça, l'autre.
Non, je trouve qu'avec Cantona, il y a un petit côté, si tu dis que je joue mal, je te tape. Tu vois, genre, t'es obligé de bien aimer son jeu d'acteur.
Il surjoue lui-même.
Ouais, d'accord. T'aimes bien, toi, Cantona, acteur?
Ça dépend des films, mais il a fait un film pas mal, je crois qu'il s'appelait Switch, dans lequel il était flic.
Ouais.
Et en fait, je pense que le rôle de personnage un peu bourreau, tout ça, ou mec de la mafia, ça marche. Quoi.
Ouais, il s'est écrit pour lui.
Bah, oui.
C'était un peu quand même ridicule, le dernier, là, avec l'autre qui fait du MMA. Là.
Sur Netflix, là.
Ouais, c'était un peu dur. C'est un peu dur.
C'est un chef mafieux. Et bon,
il surjoue. Les parrains un peu surjoués, j'ai un peu du mal, moi.
Et à votre avis, qui est premier?
Si jamais t'as oublié.
Daniel Moréa.
Ah, j'en ai oublié un. Attends.
Mon avis, alors déjà, t'as pas parlé de Lucien Denis, ancien joueur de la JOCR qui fait la doublure de
Patrick
Devers.
Attends, je comptais en parler à la fin, figure-toi. Mais là, à la première place, c'est vraiment pour moi le joueur de foot qui a le mieux réussi sa carrière de football. Est-ce que tu...
Vinnie Jones?
Bien sûr, Vinnie Jones.
Bah oui.
Vinnie Jones, parce que Vinnie Jones, qui était l'ancien bad boy.
Il est meilleur acteur que joueur de foot.
Oui, je pense. Qui était... Alors, pour ceux qui connaissent pas Vinnie Jones, c'était vraiment le boucher originel dans l'histoire du football.
Tu revois les vidéos, tu te dis, c'est incroyable.
Qu'il n'est pas de rouge en plus.
Et avec Cantona, il s'est chauffé, je crois, une fois.
Mais justement, c'est drôle parce qu'il y a une vidéo qui existe sur YouTube où Cantona, qui est censé être le bad boy quand même, il se prend un tacle massacreur de Vinnie Jones. Il se lève un peu vénère en mode je vais l'embrouiller. Et là, il voit que c'est Vinnie Jones. Et il s'arrête tout de suite.
Oui, mais il reste quand même noble.
Sobre, ouais. Mais on sent quand même qu'il est en mode oh là là, ouais, c'est Vinnie Jones.
Mais t'as oublié quelqu'un. T'as oublié un personnage.
Qui?
C'est Neymar. Neymar Casa de Papel.
Ah mais oui, Neymar, il a, mais ça,
il a joué dans la Casa de Papel.
Et dans Triple
Magnifique.
X.
Mais j'ai pas vu Casa de Papel. Il a joué dans Casa de Papel.
Il a joué. Et puis à un moment, il est en moine.
Ah ouais, tiens.
Ça, c'est quand même un genre de composition. Neymar en moine.
Et dans
Neymar.
Dans Triple X numéro 2 avec Vin Diesel, Il joue aussi Neymar, figure-toi.
Ah, ouais. Neymar.
Et de façon assez ridicule.
Putain, c'est vrai, j'aurais dû mettre Neymar.
Qui joue un footballeur qui bat les méchants en leur donnant des coups de ballon.
Bon, voilà. Ok.
Enfin, ça, on a fait ça avec Anelka dans Astérix.
Exact.
Oui, c'est vrai. Et Tony Parker qui joue au basket dans Astérix aussi.
Ouais, Amélie Mauresmo, tout était fin, génial. Zidane.
Ça fonctionne pas.
Zidane en numéro 10.
Et donc, Vinnie Jones, il a joué dans Snatch, 60 secondes chrono, Arnaque, Crime et Botanique, Opération Spadon.
Il est vraiment bon.
Et même X-Men, l'affrontement final. Donc, vraiment, belle carrière pour Vinnie Jones.
Ouais, il est chaud.
Bravo à lui. Julien, écoute. Je vais faire appel à ton cerveau reptilien.
Oula.
Je vais te poser une série de questions rapides sur des joueurs de foot. Et il faut que tu répondes le plus rapidement possible afin de voir ce que ton cerveau va chercher par premier instinct.
Ok.
T'es prêt ou pas?
Ouais.
Vraiment la première réponse qui te vient.
Allez.
Le joueur de foot le plus drôle.
Neymar.
Tu peux nous dire pourquoi?
Parce qu'en fait c'est un mec un peu deb, mais qui s'en fout. Et qui a un statut de star mondial. Et en même temps il peut te faire la tu vois ça, le mec il fait une croisière. Où il invite, c'est-à-dire que le mec, il fait une croisière pour juste que les gens viennent et qu'il fait la fetch, Neymar, et il danse, c'est un deb, et il est drôle, c'est-à-dire que c'est un clown, ouais. C'est génial.
Le joueur le plus violent.
Je me rappelle de Derzakarian, il était très violent, Derzakarian.
Mais d'ailleurs, Derzakarian qui s'est pris un coup par Cantona, je crois, à l'époque.
Ouais, il s'est pris un tac de ouf. Après, sinon, non, Carlos Moser. Carlos Moser, sinon, c'est au-dessus.
Il jouait où déjà?
C'est une idole, hein. Cherche pas comme par hasard, leur idole c'est pas Ronaldinho, c'est Carlos Moser.
Celui que tu admirais enfant.
Alors moi, tu vas rigoler, mais moi j'adorais. Alors enfant, c'est quel âge?
Bah on va dire 8-14 ans.
8-14 ans, c'est Platini.
Platini, ouais.
Platini, parce que moi à mon époque, tu voyais pas le championnat de France, très peu la Coupe d'Europe. Et donc, moi, c'est mon époque, c'est la Coupe du Monde, c'est 82, 86, l'Euro 84. Enfin, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'avais même pas le choix. Tu voulais mais qui? C'est Platini, moi.
Bah, tu vois, comme je disais avant, et puis avec Jeanne, c'est un peu la même chose. On a commencé à suivre le foot en 92. Mais récemment, sur Canal+, je me suis laissé porter comme ça par un documentaire qui s'appelle Michel Platini, le dernier romantique.
Bah, c'est incroyable.
Et j'ai adoré le documentaire.
Génial,
et du coup, quand tu regardes le documentaire, tu ne connais pas vraiment la carrière de Platini. Enfin, je connais sa carrière, mais j'étais trop jeune. Et je me suis pris de passion un peu pour Platini en regardant ce
quand il monte, c'est l'époque coup de tête. Hein. Quand il commence à monter, pile l'époque coup de tête.
Et ben on le sent. Quand même
c'est
même maillots, le début Nancy le style, et tout. Ouais. C'est assez pas mal. Le joueur qui ferait bon acteur pour le coup.
Le joueur qui ferait bon acteur, Mbappé.
Ouais, tu trouves?
Ouais. Je pense qu'il serait bon acteur parce que tu sens qu'il maîtrise tout ce qu'il veut dans sa manière de parler. Il peut avoir l'air dégoûté, triste. Il peut jouer le mec hautain plus qu'il ne l'est. Il peut jouer le mec plus humble. Il peut jouer tout.
T'as pas des petites infos pour nous là? Tu penses qu'il va rester?
Il va nous niquer, va se barrer.
Ah ouais, c'est fini, tu crois?
Ah oui,
j'en suis pas. Ah, ça fait mal.
Je peux dire. Parenthèse rapide.
Bien sûr.
Ma théorie. De toute façon, il reste jusqu'à la fin de l'année. Donc, si à la fin de l'année, il te fait gagner la Ligue des Champions. Qu'ils s'en aillent ou pas ensemble.
Ah oui, on s'en bat.
Moi, si on gagne la Ligue des Champions, ils peuvent tous se barrer, ils peuvent mettre une équipe de minime ou de féminine, je m'en bats les couilles pendant 20 ans.
Bien sûr.
Si jamais on la gagne pas avec lui, et ça veut dire que avec Cavani, ça n'a pas marché. Avec Neymar et lui, ça n'a pas marché. Avec lui et Eddie Maria, ça n'a pas marché. Avec lui et ses potes, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, toutes les formules avec lui n'ont pas marché. Pourquoi on serait plus dégoûté que ça?
Ah, c'est pas mal comme théorie, ça.
C'est-à-dire qu'on aura tout essayé avec lui. Moi, je te dis, j'aurais été dégoûté l'année dernière. Parce que lui disait, non, mais moi, j'ai deux relous, j'ai pas mes potes. Ok, on lui donne ses potes. Si on gagne pas avec ses potes, eh ben, on considérera qu'on a tout essayé avec lui. Ben, ça marche pas, ben, on fera autre chose.
Enfin, tu vois, moi, là où je lui en veux, Mbappé, c'est qu'il a ramené ses potes, Colomani,
oui,
ça machin.
Et maintenant, il va se barrer.
Et maintenant, il se barre et il nous laisse. Oui.
Alors, attention,
c'est comme un Airbnb que tu prends et tu le laves pas et tu le laisses comme ça, quoi.
Non. Par contre, t'es gentil, tu ne laisses pas ton frangin avec ses pieds carrés. Et ton pote Colomani, tu les embarques avec toi. Hein, parce que c'est bien gentil, mais tu viens avec tes valises, tu repars avec. Hein.
Tu sais, c'est comme. Alors, bon, c'est très foot, etc. Mais je me souviens qu'à l'époque, Thomas Tuchel, il avait fait des pieds et des mains pour avoir Gay. Mais c'est marrant parce que maintenant qu'il joue au Bayern, bah, il veut plus Gay. Bah pourquoi? Et comme Kerrer, tu vois.
Ouais.
Bah, tu les adorais à Paris, prends-les, pourquoi t'en veux plus maintenant?
Ouais, mais lance pas les sujets comme ça, parce que là le cinéma va paraître totalement.
Oui, bien sûr. Je continue avec le meilleur dribbleur.
Dans la vie ou.
Non, vraiment, là, le premier mec qui te vient en tête.
Bah, c'est Ronaldinho.
Ok, le meilleur buteur.
Ronaldo, le Brésilien.
Le meilleur numéro 10.
Je dirais Zidane.
Le meilleur défenseur.
Sergio Ramos.
Celui qui prend le moins bien tes vannes.
Geoffrey Jourdain.
Celui qui méritait au moins une sélection en équipe de France.
Geoffrey Jourdain.
Le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France.
Platini, je dirais. Ouais, Platini.
Le joueur de l'OM que tu as toujours envié en tant que Parisien.
Putain, c'est compliqué. Il n'y en a pas eu 50. Hein.
Je vais dire parce qu'il y en a trop.
Drogba, peut-être.
Ah ouais, Drogba.
Ouais. Ouais.
Moi, il y en a un que j'avais, c'était Fernandão.
Non, Sonny Anderson.
Ah oui, c'est vrai. Et pourtant, il était très PSG compatible, Anderson. Oui,
il voulait venir.
Ouais, je sais.
Il voulait venir. Non, non, mais ouais, Anderson. Anderson, parce que. Ouais, c'était la classe. Parce qu'à un moment donné, faut qu'il considère avec toi parce que t'aimes toi. Et voilà.
Et dans l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille,
il y en a trop. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Jonathan Klos. J'aime bien Jonathan Klos. Vraiment.
Son compte Insta est fabuleux.
Hein, génial, mais j'adore Jonathan.
Le joueur de l'OM que tu détestais.
Ah, Boli.
Ah ouais.
Boli, insupportable.
Le pire joueur de l'histoire du PSG.
Je pense que. Putain, c'est compliqué. Parce qu'il faut que ça soit par rapport à ce qu'il a coûté, par rapport à ce qu'on attendait. C'est compliqué. J'en ai tellement, en fait.
Moi, je me souviens qu'il y avait un joueur. Alors, je suis le PSG depuis longtemps. Je me souviens, dès qu'il entrait, ça me faisait peur. C'était Eric Cubillier. Bon, c'est très technique.
Oui, mais c'était pas un joueur de foot, en fait. Non, mais je rigole à peine. C'est que je crois qu'il venait de Monaco. Ouais, et en fait, c'est une énorme arnaque. Il est passé entre les gouttes. Oui, on peut mettre lui.
Mais dès qu'il entrait, ça me faisait peur. Il en reste trois. Le meilleur joueur de l'histoire du PSG.
En fait, pour moi, c'est Luis Fernandez. Parce qu'il a été emblématique en tant que joueur et en tant qu'entraîneur.
Du coup, pas de seconde question, parce que c'était le meilleur entraîneur du PSG, donc Luis Fernandez. Du coup.
Oui.
Et enfin, dernière question, ton joueur préféré actuel en 2024
Au PSG?
Non, peu importe, partout.
Ah, c'est Neymar.
Ah ouais, t'as une vraie passion pour Neymar.
J'adore ce mec, j'adore sa débilité. J'adore... en fait, j'adore tout... Parce que lui, il est un... En fait... Les gens qui veulent éradiquer ce mec veulent éradiquer un. Tu disais le dernier romantisme. Dans sa connerie, je trouve qu'il a du romantisme, Neymar.
C'est vrai. C'est-à-dire
que je dis ok, ah oui, mais il n'y a pas assez de pressing, il n'y a pas assez d'ancien. Non, mais ça existe, il y a déjà. Mais un jour, ces mecs-là, on ne les aura plus. Et on les regrettera. Bah, qu'il n'y ait que des mecs comme lui, ok, non. Mais qu'il n'y en ait plus, je dis attention.
Bah, tu vois, l'été dernier, moi, j'étais un peu plus partisan de. On garde Neymar. Et on met 10 soldats autour, quoi. Tu vois.
Ouais,
Donnez-lui le ballon, puis 10 guerriers autour de.
Mais moi, parce qu'en fait, il correspond en plus à ce que. Tu vois, par exemple, l'OM, je te prends des cas, l'OM, c'est, ça s'appelle droit au but, pas pour rien. C'est-à-dire que c'était les attaquants qui marquaient. C'est qu'eux, ils veulent un buteur, un neuf, une équipe de guerriers avec un neuf qui marque. Paris, ça a toujours été ou le Brésil, ou tu vois, ça. Et Paris, c'est pas une équipe de contre-attaque avec des mecs qui courent à 2000 à l'heure et des bourrins. Non, Paris, il faut qu'il y ait de la magie, quitte à ce que ça gagne jamais. C'est peut-être ça aussi qui est romantique. Moi, par exemple, moi, la remontada, au final, je suis content d'avoir vécu. Je suis content d'avoir vécu France 82 avec Schumacher. Je suis content. Je pense que j'ai un côté Marvelous loser, mais je trouve que ouais, j'aime ça. Je trouve que voilà, ça représente vraiment la ville, quoi. Ça c'est représente ce club.
Je suis assez d'accord avec toi. Et puis je trouve qu'il y a un ADN PSG un peu de lose auquel
ouais,
on
s'est. Mais magnifique.
Lose magnifique, ouais, c'est ça. Mais qui a resté même avec QSI, ça qui est fou en fait.
C'est-à-dire qu'on prend les tartes dans la gueule, mais on garde une belle plume colorée dans le cul.
Et c'est ça. Et chaque année, on y revient, ça qui est fou.
C'est beau.
Donc chaque début de mercato, on est là. Bon, allez, cette année, c'est la bonne.
Ouais.
Enfin bref. Aurélien, j'en parlais au début de ce podcast.
Ah oui, ça va toi, Aurélien?
Je vous écoute, je vous aime bien. J'entends plein de piqueurs, de Patrick, de trucs. C'est pas mal, hein?
Un joueur de foot connu, Aurélien?
Zidane.
Ouais, voilà, c'est toujours la réponse qu'on pose la question.
Non, je connais plein.
C'est vraiment une phrase de belle-mère, ça.
Ouais.
Ah, j'aime bien Zidane, moi. Il est bien Zidane.
Non, je suis plus époque Platini maintenant, au final. J'ai pas mal creusé 86 avec Rico.
Alors, la plus belle moustache des années 80 en équipe de France, tu dirais que c'est qui?
Je suis pas très style, mais Platini.
Bah, non, il a pas de moustache.
Il a pas une moustache.
Mais la réponse, non, c'est Domenech. Il y a eu Christian Lopez et Bernard Gengini.
Il y a Domenech aussi, non?
Ouais,
c'est Domenech.
Ouais. Alors oui, donc Aurélien, des films qui parlent de foot, enfin des bons films qui parlent de foot, c'est assez rare.
Il y en a pas
général,
beaucoup.
C'est pas la joie. Il me semble que t'as une petite liste là.
Oui, j'en ai pris 5 qui parlent de foot ou au moins à côté, mais il y en a quelques-uns que t'as déjà évoqué dans ta liste des acteurs footballeurs. Mais je vais commencer avec un qu'on n'a pas encore évoqué, que vous connaissez sûrement, peut-être, qui s'appelle The Damned United.
Non, je connais pas.
Un film de 2009 de Tom Hooper, le mec qui a fait après Le Discours d'un Roi et plein de films qui sont devenus très oscarisés, qui parle d'un fait réel qui à la base s'est tiré d'un bouquin qui s'appelle 44 jours de David Peace. Que j'ai
c'est
lu.
Pas le mec qui s'est incrusté dans un. Non, c'est pas ça?
Non, c'est l'histoire d'un vrai.
Newcastle? C'est pas Newcastle?
Si, non, de Leeds.
Leeds, pardon. Oui, oui, c'est ça, c'est Leeds.
C'est l'histoire de, en 1974, le flamboyant et opinâtre Brian Clough qui prend la tête de Leeds United, une équipe de football réputée à l'époque pour sa brutalité et ouais, il ne l'aime vraiment pas beaucoup. Or, privé de son assistant, haï des joueurs et confronté à plusieurs revers et défaites, il démissionne après seulement 44 jours en poste. Et c'est tiré donc d'un un livre qui est plus ou moins une fiction, mais tiré d'histoire.
C'est un énorme best-seller de
David Peace, que j'ai lu, qui est cool, qui peut se lire vraiment très bien, qui est un peu fait comme un thriller et qui est tiré d'une histoire vraie. Et après, ce qui est cool, c'est qu'après, en plus, l'entraîneur va devenir un des plus gros entraîneurs de l'équipe nationale d'Angleterre.
Brian Clough, ouais.
Ouais. Et il y a toute une histoire autour de ça et un peu... comme on a parlé dans Coup de tête, il y a un truc très social de la ville de Leeds et de ce que c'est, de le football violent anglais. D'ailleurs, on se rend compte dans ma liste que la plupart des bons films, c'est des films anglais ou autour de l'Angleterre quand même.
Et d'ailleurs, à époque égale, tu vois la différence, c'est que c'est beaucoup plus beauf mais bon enfant le foot en France qu'en Angleterre où c'est beaucoup plus violent.
Ouais, grave. Bah d'ailleurs, le deuxième film que je vous propose, c'est un film, en fait c'est un téléfilm qui est devenu très important en Angleterre, donc qui est considéré comme un film, c'est The Firm, un film de 1988 d'Alan Clark qui signe les débuts de Gary Oldman. Et c'est un film sur le hooliganisme en fait et sur vraiment les fans de foot, inspiré des activités de l'Intercity Firm, une organisation de hooligans du club de football West Ham pendant les années 70-80 et qui est devenu ensuite le Intercity Crew. En gros, ça parle de bandes rivales de supporters de football qui s'affrontent dans un film marquant les débuts de la carrière de Gary Oldman, qui se fait appeler à l'époque Clive Bexy Bissell. Et on trouve plein d'acteurs anglais un peu vénères de l'époque. Et il notable pour. C'est un film qui est notable notamment pour le comporter aucune musique. Il n'y a pas de générique de début, pas de générique de fin. C'est très sombre. Et en fait, bah, bizarrement, moi je ne connais pas donc, cette histoire, mais apparemment, les supporters de West Ham étaient quand même catastrophiques dans les années 70 et 80, parce que c'est aussi eux qui ont inspiré le film, peut-être que vous avez vu, qui s'appelle Hooligans, Green Street Hooligans, avec Frodon.
C'est celui-là que je pensais. J'ai mélangé les deux.
Celui-là est sorti dans les années 2000, mais il est tiré de la même histoire. Et en fait, moi, j'ai vu The Firm, et c'est vrai qu'il est encore plus darkos de fou et vachement plus aussi social. Parce qu'en fait, il y a tout un délire sur la place de Gary Oldman dans son club de supporters et comment il veut faire une alliance. C'est presque The Warriors. Il veut faire une alliance de tous les clubs de supporters pour dire quelque chose de la société anglaise grâce au foot.
Non, mais c'était Game of Thrones. Hein.
Ouais.
Et au final, il y avait des clans, des machins. Il y avait des clubs qui avaient. Les supporters étaient proches d'autres clubs. Donc, quand les mecs se déplaçaient chez les autres, ils leur pétaient la gueule par rapport à des amitiés, tout ça. Ouais, les mecs de Feyenoord sont proches des mecs de Millwall, les mecs de Crystal Palace sont proches. Enfin, c'est clanique. Hein. C'est vraiment.
Puis il y avait plein de trucs un peu politiques aussi sur les directions de chacun, d'autres qui étaient un peu
club
plus.
Club bourgeois, club ouvrier. Club
exactement. Machin. Et donc, le film est super intéressant, je vous le recommande. Et un petit peu plus indé et très british par rapport aux hooligans avec Frodon. Autre film que tu as évoqué avec. Robert Duvall et Michael Keaton, A Shot at Glory, sorti en 2000. En France, c'est un but pour la gloire, qui parle d'un entraîneur de l'équipe écossaise de football, qui est donc joué par Robert Duvall, qui se retrouve à être proposé par... Enfin, le club a été racheté, le club écossais a été racheté par un propriétaire américain, qui est donc Michael Keaton, et qui dit, bon, l'équipe, elle est pourrie, ça marche pas et tout, je te laisse un an et tu prends un joueur, qui est donc Ali, dont vous avez parlé,
McCoy,
qui le joue. Et tu prends ce joueur-là, tu fais une saison dans ton club. Si ça ne marche pas, on vire le club d'Écosse et on le fout en Irlande, à Dublin. Donc il a un an, Robert Duvall, pour arriver à gérer cette équipe. Problème, le joueur star que lui a proposé Michael Keaton, c'est son ancien gendre, qui déteste, avec qui ça s'est embrouillé de fou. Et le film, je ne l'ai pas vu, mais il a l'air vraiment excellent.
Ouais, mais en me renseignant sur Ali McCoy, ça m'a donné envie de le voir, ce film. Ça a l'air
il est hyper bien noté, et il est surtout réputé pour sa musique, qui est signée Mark Loeffler, le guitariste de Fate. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent « je connaissais la musique, je ne connaissais pas le film », et c'est un peu une petite pépite très peu connue que j'ai découvert là,
je
en
me
faisant des recherches. Ensuite, tu en as parlé, il y a le fameux « Escape to Victory »,« À nous la victoire » de John Huston, avec Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow et donc pas mal de joueurs dont
Pelé, Charlton,
oui c'est vrai,
ouais il y a beaucoup de joueurs anglais etc. Donc l'histoire
et la bicyclette de 35 mètres,
oui l'histoire ouais on remet dans donc le conseil de l'histoire, c'est vraiment genre des footballeurs
des prisonniers
pendant la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers à l'été 43 des fans de foot qui sont là en mode ok, bah, tous les prisonniers, on vous demande de jouer un grand match contre la plus grande équipe possible de nazis, en fait.
Ouais.
Et ils doivent jouer dans le stade de Colombes. Et à côté de ça, ils montent tout un délire d'évasion.
Où ils doivent s'évader à la mi-temps.
Voilà, ils doivent s'évader. Ils ont prévu, parce que c'est le seul moment où ils peuvent sortir de prison. Et ils doivent faire un énorme combat, enfin un énorme match qui est censé déterminer en fait qui va gagner, qui va gagner entre les nazis et les alliés.
Stallone qui est
Gaulle. Exactement. Alors qu'il a jamais joué au foot, enfin dans le film, il n'est pas censé être joueur, je crois. Et donc, comme tu as dit, il y a une énorme le gros climax, c'est est-ce qu'ils vont faire cette évasion qui est donc vraiment la possible, c'est la grande évasion, ou alors est-ce qu'ils vont juste
évidemment,
battre les nazis au foot.
Il y a deux héros, il y a Pelé qui marque et Stallone qui est le gardien qui arrête le péno.
Qui l'arrête de façon peu académique.
Ouais, ah, ça, c'est magnifique.
En même temps, il n'est pas trop le style. Hein.
Non.
C'est quand même pas Patrick Schmeichel. Ouais,
c'est quand même un film de John Huston, qui est un grand réalisateur. Ouais. Et c'est son seul film de sport, qui aussi est un film de prison et un film de guerre quelque part. Donc un peu atypique, mais très important. Et je le mettais en même temps qu'un autre film de prison, qui est, tu en as parlé, Vinnie Jones, Mean Machine, Carton Rouge, qui est quand même un film incroyable. Vinnie Jones qui se retrouve à être presque dans son propre rôle, parce qu'il se retrouve à être un joueur de foot qui va faire de la prison pour conduite en état d'ivresse. Il se retrouve en 11 pendant 3 ans. Et vu que c'est un ancien joueur d'une grande équipe, on lui propose d'être entraîneur des gardiens. Et il dit « Non, j'ai pas envie de faire ça. Par contre, je vais entraîner une équipe de tôlards pour se battre contre l'équipe des gardiens. » Et ça va être le grand truc, qui est un classique du cinéma américain, mais d'habitude fait autour du football américain. Ça s'appelle The Longest Yard. Il y avait déjà eu plusieurs versions. Je vous recommence Carton Rouge, parce que Vinnie Jones, il est incroyable. Il est un peu comme dans la vraie vie. Il fait des tacles, il se tape avec tout le monde, il sourit avec ses dents du nimp. Et c'est filmé comme un film de Guy Ritchie. Ça part absolument dans tous les sens. Donc,
cool. Et puis, ça t'a donné envie, Julien, ces films ou pas?
Complètement, les deux que j'avais pas vu. Et alors surtout, ça fait écho quand tu dis la version française, c'est Carton Rouge.
Oui, tout à fait.
Et ben, il y a un film anglais qui se tirait d'un best-seller d'un supporter d'Arsenal. C'est avec Colin Firth. En français, c'est Carton Jaune, mais je ne me rappelle plus le nom en anglais.
Je ne l'ai pas vu.
Qui est extraordinaire.
Nick Hornby. C'est un bouquin.
Exactement.
Nick Hornby.
Le fameux bouquin Nick Hornby, où le mec est fan d'Arsenal et ça pourrit sa vie privée. C'est-à-dire que le mec, c'est vraiment un truc, c'est une obsession.
Ouais.
Et c'est génial, c'est que là, tu vois ce que c'est un supporter de foot en Angleterre. Ça n'a rien à voir avec ailleurs, quoi. C'est-à-dire que le mec, tu vois la névrose autour de la passion pour un club. Et c'est un best-seller parce que...
Et ce qui est fou, c'est qu'ils en ont fait une version américaine de ce film qui s'appelle Fever Pitch avec...
C'est le nom Fever
Colin
Pitch.
Colin Farrell, voilà. Qui parle de baseball. Bouquin. Il est fan du club de Boston. C'est avec Drew Barrymore. Et c'est comme ça un grand fan d'une équipe de baseball, et on voit que ça lui pourrit la vie parce que tout son calendrier est basé par rapport à l'équipe, et ils ont mis ça par rapport au baseball. Donc moi, je connais le film par rapport au baseball.
Tu parlais d'ambiance juste avant, Julien, toi qui as eu la chance de faire pas mal de stades en France, quelles sont les meilleures ambiances pour toi en France?
Alors ça dépend, moi honnêtement dernièrement, enfin j'ai fait plusieurs fois Bollard, c'est assez impressionnant parce que quel que soit le match, quel que soit le score, c'est impressionnant. J'ai retrouvé par hasard à Istanbul pour Fenerbahçe Galatasaray.
C'est alors aussi là, impressionnant que ça.
C'est pas que c'est impressionnant, c'est que quand tu rentres, tu sais pas si tu sors.
Ah ouais.
Et tu dis et puis j'ai pas fanfaronné que j'étais arménien en plus à ce moment-là. autant te dire que bon. Mais mais c'est oui, il y a des ambiances de dingue. Après le Vélodrome quand ça gagne. Dès qu'il y a un coup franc de Cavani, ça s'éteint vite. Il y a une très belle ambiance. Non mais quand ils sont, quand l'équipe va bien, mais c'est vrai que ça c'est la particularité de Marseille. C'est peut-être un des meilleurs publics d'Europe. Dès que ça va moins bien, c'est une catastrophe. Ils partent avant la fin. Hein, bon, ouais. Bon. Mais c'est quand même impressionnant. Le parc dans les grosses ambiances de Coupe d'Europe, quand il commence à prendre, parce que la manière dont est fait le stade rend l'ambiance dingue. Mais après, en France, il n'y en a pas tant que... Strasbourg, c'est chaud. C'est comme tu disais, coup de tête, c'est le foot vrai. Ce foot existe encore, mais c'est un foot... attention, c'est une petite équipe amateur. Hein,
ça existe encore au Red Star, quand on va à Saint-Ouen.
Ouais, c'est un club de bobos. Arrête, il n'y a que des mecs avec des petites Stan Smith, des pantacours. Personne ne croit à cette pantacour.
Rosé en terrasse.
Non. Le vrai foot, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, en Moselle, dans la Creuse, quand à un moment donné, tu vas te... D'ailleurs, je reviens sur le film de Coup de tête. Ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir réussi à faire ce film alors qu'il ne connaissait rien au foot et qu'il ne s'y intéressait pas. Et que quand tu vois ce film, tu ne vois pas un mec qui ne connaît pas le foot. Tu vois un mec qui connaît l'univers. Pourquoi ? Parce que moi, j'avais vu un docu là-dessus. Et il s'est levé tous les week-ends, aller se faire chier dans les districts, voir des matchs de 5e, 6e ouais. division, dans la boue, à voir l'ambiance, l'atmosphère. Il a pris des notes et tout. C'est un stacanoviste, le mec. Moi, Jean-Jacques Hano, je trouve que c'est quand même un génie. Il y a un côté un peu Stanley Kubrick français. C'est-à-dire qu'il peut te faire ça, il peut te faire.
C'est dans la rose.
Au nom de la rose, il peut te faire la guerre du feu, il peut te faire. Enfin, ouais. c'est délirant de voir avec une justesse incroyable. Donc, ce film, t'as l'impression qu'il a été fait par un mec qui vient de ça. Alors que pas du tout.
Mais c'est son seul film qui est en France, je crois, d'ailleurs, à Jean-Jacques Hano. Je crois que c'est le seul film qu'il ait fait et qui soit contemporain.
Non, il y a. Bah, oui, on en parlera, mais il y a Notre-Dame aussi.
Ah oui,
mais,
ah, oui exact. Ouais.
Justement, tu me lances bien, Julien, parce que. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que tu raffoles des anecdotes croustillantes sur les films ? T'adores ça, toi ?
Mais qui dit non ?
Bah, qui dit non, effectivement. Bah, il a bien répondu, qui dit non à ça. Mais écoute, j'en ai plein pour toi, figure-toi.
J'adore.
Alors. Déjà, figurez-vous qu'après son Oscar pour son premier film, Hollywood a tendu les bras à Jean-Jacques Hano pour tourner là-bas, mais celui-ci a refusé, préférant tourner Coup de tête en France. Donc il a dit non à Hollywood pour rester en France et faire Coup de tête. Il s'est rattrapé par les suites parce que, comme je le disais juste avant, il a fait 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. Donc ouais. Carrière assez incroyable quand même pour Jean-Jacques Hano.
Juste, je peux faire une précision par rapport à ça. C'est savoir qu'il veut faire Coup de tête avant. Et sauf qu'il est en galère, il se fait envoyer balader par tout le monde. Devers dit oui, mais c'est compliqué. Devers, il va pas bien et tout. Et c'est grâce à l'Oscar sorti de nulle part.
Ouais, parce que ça fait un flop en salle son film.
Exactement. Qu'on lui dit non, mais en fait, c'est bien et tout, machin. et d'ailleurs, Devers lui a écrit une lettre magnifique que j'ai lue parce qu'elle était dans le bonus DVD, quand t'achètes le DVD, collector. Et incroyable, il lui dit que ce film l'a sauvé. À une période où ça allait pas bien du tout. Donc,
tu nous régales d'infos toi aussi, vraiment.
Mais j'en ai 2-3 sur le film.
Ouais, hein. Pas mal, j'aime bien, n'hésite pas. Bon, alors, l'idée aussi du film, c'est suite à l'épopée en Coupe de France en 73 de Guingamp.
Absolument.
Qui a fait une épopée. J'ai un peu checké l'épopée de Guingamp en 73. Ils ont éliminé des D2, surtout, je crois que c'était Lorient et Le Mans. Après, ils se sont fait éliminer en quart ou en huitième, je crois. Mais en tout cas, ils venaient de nulle part. C'était la D5, je crois, à l'époque. Ouais. Et Trinquant, c'est une ville qui n'existe pas, c'est ça ?
Non, non, non.
Et en fait, c'est un hommage à Guingamp, voilà, dans le nom, comme ça, un peu. Et donc, c'est un peu grâce à Guingamp aujourd'hui. Guingamp qui est un peu vu comme le club en France. Petit Pousset qui a réussi, finalement.
Oui. Alors après, il a un peu changé de statut à partir du moment où son président, mentor, était Noël Le Graët, qui était... le baron, le parrain du foot français. Donc, dès que tu avais un match de l'équipe de France, ça se passait à Roudourou, au stade de Guingamp, où il y a 3 pelés intondus. On disait, c'est quand même bizarre leur histoire. Donc, il a un peu perdu de ce côté sympathique à cause de Noël Le Graët. Mais juste par rapport à ça, c'est que c'est ça part de Guingamp, mais c'est tourné à Auxerre. À l'époque où Auxerre et Giroud accueillent le film, alors qu'Auxerre est un club. Qui est encore très très
de division 2.
Division, il est que division 2.
D2, ouais.
Bon, mais bon, il est inconnu, je dirais, pour les gens. Et voilà, il y a un joueur qui s'appelait Lucien Denis qui était après mon collègue à RMC.
Ah, c'est drôle.
Qui était la doublure de Patrick Devers.
Et qui a joué plus de 200 matchs à Auxerre, Lucien Denis. T'en parlais tout à l'heure un peu, Julien. En fait, ce qu'ont fait Weber et Hano pour préparer ce film, c'est que pendant un an, effectivement, ils sont allés au contact du football amateur, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir des matchs, il y avait la troisième mi-temps, ils allaient dans les bus avec les supporters aussi, ils ont vraiment tout fait pour vivre le foot amateur. Ouais, ça se voit à fond. Et c'est comme ça qu'ils ont vraiment saisi l'essence de ce milieu-là. Et il y a eu une préparation, bah justement, t'en parlais, à la un peu stacanoviste.
Ouais.
Donc, vraiment pas mal d'avoir préparé ce film pendant un an à ce point-là, quoi. Je trouve ça assez cool. T'en parlais également, Giroud a joué un rôle important dans ce film parce que des scènes sont tournées à la Baie des Champs, déjà. C'est lui qui a été conseiller technique sur le film. Donc, quand il y avait des questions liées au foot, c'est à Giroud qu'on demandait. Et c'est effectivement Lucien Denis, qui était un joueur d'Auxerre, qui a été doublure de Patrick Devers. Et tous les joueurs qu'on voit à l'écran sont, pour la plupart, des joueurs de Auxerre.
Absolument.
Et de Troyes également. Voilà.
Ce qui est drôle, c'est que pour la dramaturgie de l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il y avait des matchs aller-retour en Coupe de France,
il y avait ça ?
Ah, bien sûr.
Ah, je ne savais pas, moi, je pensais que c'était
Mais d'ailleurs, il le dit à la fin, c'est-à-dire que lui, c'est un héros du match aller, où ça gagne 2-1, Trinquant gagne 2-1, et donc... Et lui, il les plante le jour du match, la veille du match retour.
Ah oui, il y a 6-0.
Il les plante et ils prennent 6-0 au match retour. Donc en fait, tout ça n'a servi à rien. Donc, c'est plutôt
rigolo.
Ah
mais oui, c'est vrai. Exactement.
Oui, c'est ça.
Alain Poiré, patron de Gaumont à l'époque, ne voulait surtout pas de Patrick Devers. Lui, ce qu'il voulait, c'était Depardieu. Et la raison pour laquelle il ne voulait pas de Patrick Devers, c'est parce que Patrick Devers avait dit non à un film qu'Alain Poiré lui avait proposé 2 ans auparavant. Du coup, il l'avait un peu mauvaise. Et il était en mode non. Il m'a dit non une fois, donc il ne me dira pas. Enfin, je ne veux pas me mettre à genoux devant ce gars. Et puis finalement, c'est Anneau qui a insisté, parce que Anneau voyait Patrick Devers comme un acteur mineur, et ce n'était pas péjoratif. Il le voyait comme un type qui avait plusieurs cordes à son arc, là où finalement Depardieu est un peu imposant comme ça, et lui, il voulait quelqu'un d'un peu plus fragile.
La force de Devers, et qui va bien avec le rôle, c'est sa fragilité.
Exactement.
C'est-à-dire que quand à un moment donné, il lui dit, il essaie de. Il veut se venger parce que la fille l'a accusé de viol. Enfin, la pauvre, elle a été manipulée. Donc, elle l'accuse de viol et que c'est pas lui. Il y retourne pour dire, quitte à avoir passé 2 mois en prison, je veux au moins violer. Et il essaye de la violer. Il s'arrête et dit, moi déjà, quand les filles sont d'accord, j'ai du mal à leur violer. Et ça, par exemple, bon, si Depardieu le dit...
Ouais.
Même à l'époque, vu le personnage de Depardieu...
Non, on n'y croit pas.
On n'y croit pas, alors que Devers... Il a une œuvre extraordinaire. Il y a des cylindres, c'est des petits détails. Tu sais, même quand. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est le mec parfait face au minable. C'est-à-dire que c'est une éponge à tout ce qu'il y a de minable autour de lui. Et avec son regard, quand il lui crache tous dessus, ou quand il se fait virer de l'usine et tout, il a des moments de silence où il les regarde. Et c'est incroyable parce que les autres, ils sont fabuleux parce qu'ils jouent, que ce soit Michel Aumont et tout, les seconds rôles, dans leur côté minable, ils sont extraordinaires. C'est vraiment la lâcheté, mais sublime. Et lui, il est parfait. C'est-à-dire que c'est le miroir parfait de ça.
Et il est aussi parfait parce qu'il est fragile, mais en plus d'être fragile, il est aussi insaisissable.
Exactement.
Donc il y a un truc où on ne sait pas trop quelles peuvent être ses réactions.
Et en même temps, c'est-à-dire qu'il peut basculer d'un coup à quelqu'un de dangereux.
Exactement.
Parce que tu n'arrives pas
Alors, c'est Lucien Denis qui l'a doublé. Et la raison pour laquelle c'est Lucien Denis qui l'a doublé, c'est parce que Guirou avait donné son avis et avait dit en fait, c'est pas possible qu'on n'y croit pas. Il est trop cata, Patrick Devers, en fait.
Donc, ah ouais.
Patrick Devers donnait tout ce qu'il avait pour avoir l'air d'être un footballeur. Sauf qu'il était tellement nul,
il est pas coordonné, gestuel,
tellement pas coordonné, qu'ils se sont dit on est obligé de prendre une doublure, c'est pas possible sinon. Jean Bouise, on en parlait tout à l'heure, qui joue le président du club, le moustachu. Figurez-vous qu'il a eu le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Coup de tête. Donc assez formidable quand même, bravo à lui. Alors, une des raisons pour lesquelles ce film n'a pas vraiment marché au cinéma, même s'il a fait quand même 900 000 entrées, c'est pas mal, un peu plus de 900 000 entrées, c'est parce qu'il est sorti à une époque où il y avait la grève de la télévision. Donc il n'y avait pas eu de promo, et puis finalement après ça s'est réglé. Et l'autre problème, c'est que Patrick Devers n'a pas voulu faire la promo à la télévision parce qu'il était en mode... Moi, je viens pas quand on m'appelle et qu'ils ont terminé leur cinéma.
Il s'en est excusé auprès de Jean-Jacques Hano, d'ailleurs.
Exactement.
Dans la lettre.
Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles le film... Mais après, ça a été un triomphe quand c'est sorti à la télévision.
Et puis,
sur Antenne 2.
C'est considéré comme le film sur le foot.
Exactement. T'en parlais tout à l'heure, justement, c'est... Jean-Jacques Hano, il a la particularité d'avoir fait des films qui se passent soit dans les années 20, 30, 40, mais jamais à notre époque. Et Coup de tête, c'est le seul film contemporain de Hano avec récemment Notre-Dame brûle, qui est sorti en 2021, je crois. Premier film pour Jean-Pierre Darroussin, qui joue un photographe dans le film.
Ah.
Donc voilà, son tout premier rôle.
Oui, quand il prend la voiture en photo, là.
Ouais, Jean-Pierre Darroussin, premier rôle.
Voilà. Ouais.
Donc Coup de tête, plutôt pas mal de commencer avec Coup de tête. Il y a eu plusieurs titres pour Coup de tête. Le premier titre, c'était Le Hareng, parce que ça se passait en Bretagne et que... il y avait tout un truc autour des pêcheurs vendeurs de harangues, c'était un métier difficile, etc. Machin. Après, ça s'est appelé Le Bourrin, parce que football amateur, etc. Et finalement, ils ont appelé ça Coup de tête. Et enfin, dernière info, et celle-là, elle est assez drôle, Pierre Bachelet, quand il a composé la musique du film, il avait besoin d'un siffleur professionnel.
Ah, je la connais, celle-là.
Ouais, là, c'est cool. Donc, il avait besoin d'un siffleur professionnel. Ils sont en studio, comme ici, avec nous, etc. Le siffleur professionnel arrive, sauf que le siffleur professionnel est complètement bourré.
Ah, mais attends. Pourquoi il est bourré?
Ah ça, j'ai pas l'info, ça.
Alors attends, il arrive en avance. Les mecs lui disent, t'es en avance, on doit faire des trucs avant, enregistrer des trucs avant. Va attendre, il attend au bistrot pendant une heure et il se colle. Il se la colle au bistrot. Et quand il revient, il est rôti, c'est pour ça. Donc,
ok, c'est drôle, bah, tu vois, j'avais pas cette info-là, c'est encore plus drôle. Et du coup, il siffle. C'est une horreur. Et donc du coup... Ils ont fait siffler des gens dans le studio, quoi. Donc il y avait les gens de l'équipe technique et tout. Fais voir comment tu siffles, toi, fais voir comment tu siffles. Et il y a un mec qui sifflait plutôt pas mal. Et ils ont dit, bon, bah voilà, viens, et c'est toi qui
t'es sûr que c'est pas Pierre Bachelet, la dernière version, qui siffle?
Alors, moi, l'info que j'ai lu, c'est que c'était un mec de l'équipe technique.
D'accord,
qui sifflait, quoi.
Possible. Et moi, il me semblait que c'était Pierre Bachelet qui l'avait filmé. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est pas un siffleur professionnel, mais c'est magnifique.
Mais c'est sublime.
Mais
c'est
la comme musique, quoi. Tu t'en es servi d'ailleurs pour illustrer certains de tes reportages.
Exactement. Quand je faisais, en fait, je l'utilisais parce que j'adore. C'était quand j'allais dans les vestiaires et tout, que j'allais interviewer les mecs. Je mettais toujours ça. C'est parce qu'elle est, elle est incroyable. Elle te met dans un truc dès le début du film. Quand tu vois les gens qui chantent, qui hurlent avec le J9 et lui qui est dessus, là, comme ça, tu vois bien qu'il est en décalage total avec tout le monde alors qu'on le célèbre. Et que tu as cette petite musique qui t'accompagne tout le film. C'est incroyable. C'est là où tu vois la force. La force de ça.
Est-ce que, Jeanne parlait de tes chroniques, est-ce que tu as l'impression qu'une de tes plus grandes forces aujourd'hui, enfin, une de tes plus grandes récompenses, c'est d'être aimé par tous les supporters, même les supporters de l'OM?
Oui, ça c'est vrai. Aussi par les acteurs du foot, parce que l'air de rien, les mecs, en gros, moi ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils se disent, en gros, tu peux te foutre de notre gueule parce qu'on voit que t'aimes ce que tu fais. Mmh. Tu nous aimes en fait. T'aimes vraiment le foot. T'es pas juste un mec. Toi, on m'avait dit, par exemple, tu vois, des mecs comme Gérard ou comme. Quand ils font des imitations de footballeurs ou quoi, qui se foutent de leur gueule. C'est très bien fait, mais on sent qu'ils aiment pas. Mmh. On sent qu'ils veulent dire vous êtes des cons. Moi, vous êtes des blaireaux. Mmh. Moi, je suis un blaireau. Je suis un mec comme les gens du foot, c'est-à-dire que je me mets pas au-dessus. Même je vais chambrer autant que je peux, mais je me mets pas au-dessus d'eux. C'est-à-dire que je les aime d'abord, tu vois. Par exemple, tu me demandes, j'adore Neymar. Je suis jamais autant foutu de la gueule d'un mec que de Neymar. Mais je l'aime Neymar. J'aime tous ces mecs-là. J'aime tous leurs défauts. Voilà. Donc je pense que. Et puis surtout, le football. Tu vois par exemple. Tu peux faire des blagues sur ce que tu veux, l'économie, la politique, machin, tout ça. Les gens, ils y captent à moitié rien. Mmh. Donc finalement, les rêves, tu les as pas. C'est pas très grave. Le foot, que ça soit l'avocat, le balayeur, tout le monde est au même niveau. Les mecs, ils connaissent. Mmh. Tu les baiseras pas. Si t'as des rêves qui veulent rien dire, ils vont te griller. Sauf que dès que t'as de l'humour, mais qu'en plus, tu vas placer des références qui leur parlent, ils vont dire, ah, il en est. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, c'est fédérateur.
Voilà.
Impossible.
Le foot, ça pardonne pas. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est un mec excellent, un humoriste excellent qui ne connaît pas le foot, s'il fait des blagues sur le foot, il sera pas accepté. Mmh. Il sera pas accepté parce qu'on va dire non, mais t'as compris, tu sors toujours les mêmes, tu sors Zidane, Ribéry et Zaya. ça bon, tu vois, on a compris, tu vois. À un moment donné, faut que tu sortes du pancras.
Mais ça, de façon,
faut que tu sortes du Nicolas Laspal.
Oui, voilà.
Et ça n'a jamais été chaud avec aucun footballeur. Enfin, il n'y en a aucun qui a
voulu. Geoffrey Jourdain.
Ah oui, vraiment.
Ouais. Ah oui, lui, il voulait vraiment ma peau, lui. Lui, si.
Tu l'as guetté quand même.
Non, mais il y a Ruffier qui m'en voulait aussi beaucoup.
Bah, Ruffier, pour me remettre un peu dans l'ambiance, j'ai regardé quelques-uns de tes best-of sur YouTube. Et il y a un moment assez glacial où je crois que tu assistes à un Saint-Etienne Montpellier.
Ouais.
Et il te passe devant.
Et on a mis la musique des Dents de la Mer.
Et franchement, tu sens que ça peut être chaud parce
ouais.
que Ruffier, il passe devant, il regarde et il te regarde pas. Bon,
et juste après, je fais.
Ouais, si tu lui dis un mot, je pense qu'il t'attrape.
Ouais.
mais à contrario aussi, il y a aussi des bons moments parce que des mecs comme Cheikh Diabaté. Le prennent hyper
incroyable,
bien.
Incroyable.
Et moi, j'avais vu une séquence où c'était un gars que tu charriais souvent et qui. Et ça le rend encore plus sympathique parce qu'il
ouais.
est avec toi et puis il rigole aussi. Quoi,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Il t'a fait
et
un
surtout,
bisou même.
Et à la fin, il fait même un discours pour dire à quel point il est heureux d'être là. Et moi, j'ai discuté avec lui, je lui dis, mais par exemple, toi, à aucun moment tu l'as mal pris. Il dit, tu sais, puis celui qui dit, moi, je viens du Mali, j'ai une histoire, je devrais être mort 8 fois et aujourd'hui, je suis payé très cher pour jouer au foot. Mais vas-y, fais tes blagues. Je veux dire, fais ton métier, c'est ton métier. Moi, je fais mon métier et on est tous heureux. Et je vais pas me plaindre. Bon, voilà, il y a des mecs qui devraient bien écouter ce genre de discours.
Ouais.
Ça va mettre les idées en place.
Il y avait une séquence que j'adorais que tu faisais qui était dans J+1 où tu parlais de la Ligue 1 pêle-mêle et tu faisais des voix par-dessus. Il y avait des images, souvent des images d'échauffement et tu rajoutais des voix par-dessus. Est-ce que ça, j'imagine que c'était travaillé en amont, mais une fois que c'est en direct comme ça. Comment tu gérais le fait de bien synchroniser les voix? Est-ce que
c'est,
il y avait du freestyle
total.
Feeling total,
ouais. Ouais, c'est-à-dire que j'avais un canevas dans ma tête, je
de
savais
van.
Plus ou moins
okay.
comment les dire. Mais après, tu es obligé de t'adapter parce que aussi, comme tu es en public, il faut que tu sois connecté. Parce que sinon, ils vont perdre les choses, les gens, tu vois. Il faut que c'est con, hein, mais c'est pas pareil que si tu l'enregistrais. C'est-à-dire que tu peux pas lire ton papier. Je n'avais aucun truc à lire.
C'était ton exercice le plus difficile dans toute ta carrière, ça?
Oh, je sais pas. Après, en fait, tu te fais à tout. Hein. Tu t'habitues. C'est-à-dire qu'après, c'est une technique. Au début, c'est difficile, puis après, ça te paraît facile. Puis quand les gens t'expliquent comment tu fais, et même toi, tu regardes, après, tu dis, bah oui, comment je fais? Mais en fait, si, à force de le faire, c'est comme tout, tu vois.
Alors, souvent, quand on parle de Quai d'Olivier et qu'on pense à leur sketch culte, il y a les... Jean-Michel...
Pachut.
Jean-Michel Pachut.
Jean-Michel Pachut. Et toi aussi, une des choses qui t'ont fait connaître, c'est les musiques sur les joueurs de foot.
Ouais. Je commence à en avoir un paquet.
Là, tu commences à en avoir un paquet. Là, la dernière, c'était Kolo Muani en date. Il y en a une aussi qui m'avait marqué, qui était...
Plessis.
On n'en attendait rien de Damien Plessis. Un Lyonnais, un petit jeune de plus qui finit en réserve. Il s'y est pendant 2 ans le banc de Liverpool. Mais en Grèce, il déchaîne les foules. Oui, Damien Plessis. Oui, perds pas ton temps à 22 ans. À Nice, à Bordeaux, à Lorient ou à Nancy.
On en a parlé beaucoup de celle-là. On m'a dit, mais c'est incroyable de hurler Damien Plessis sur, pour le plaisir de Herbert Léonard. Parce que il était, j'en ai fait sur des mecs, Jean-Sébastien Jaurès, des trucs comme ça.
Mais en fait, c'est ça que je trouve drôle avec Julien Cazard, c'est que tu parlais de... Les gens acceptent mes vannes parce qu'ils savent que je connais le foot. Mais ça qui est drôle, c'est qu'en fait, tu vas chercher des musiques sur Damien Plessis et pas forcément sur Zidane, sur Ribéry, sur Zaya, ouais, tout ça, machin. Tu sais, c'est vraiment c'est très technique, une chanson sur Damien Plessis, quoi.
Ouais.
On a tout donné pour avoir l'Angile. On a même vendu les domaines, les presqu'îles. Faut dire que mal au pied, il est facile. Même le grand Yatabaré est moins habile. En plus, il a du style. Comme un arabe de l'Angile. J'ai envie d'avoir l'Angile. Après, je vous laisse tranquille.
Et bon, ouais, bref, mais même, j'ai fait un autre mec qui était sur les Roumains qui dansaient sur l'avion en chantant la Nouma Noumaïe. J'avais fait Gaël Danick. Gaël Danick. Mec, un obscur joueur à Lyon remplaçant.
Gaël Danick, Gaël Danick.
Donc à un moment donné, là, c'est à la limite du hipster, là, tu vois, du geek.
J'aime trop, putain. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier...
Je vais avoir un café.
Ah, il en rêve, du café. Le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question, figure-toi que j'ai envoyé la liste des questions à la personne avec qui tu travailles. Mmh. Elle m'a dit, je ne la transmets pas à Julien, il répondra comme ça à l'instinct.
Ouais.
Donc... Le dernier film...
Salope, pas du tout au courant de cette histoire.
Le dernier film que tu as vu au cinéma.
Au cinéma, putain, tu sais que c'est, j'ai fait un gros break de cinéma ces derniers temps, mais le dernier film, tu sais que j'ai un trou noir. Elle aurait dû me prévenir à l'avance. Non, mais je sais que le dernier film que j'ai vu, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était Indiana Jones.
Et alors, t'as aimé ?
Alors, j'ai adoré le début et je me suis rendu compte d'un truc. J'ai eu un flash. Ah. Je me suis dit, le 1 est génial. Le 2 est sympathique, mais bon.
Moi, j'adore le 2.
Moi aussi, j'adore, mais.
C'est un bordel.
Mais tu le mets pas dans. C'est pas un grand film, le 2. C'est bon. Le 3 est génial. Le 4 est une banane.
Ouais.
Grosse banane.
Mais attention, je l'ai revu, il y a des moments pas si mauvais.
Oui, oui. Parce qu'avec le recul, t'es un peu moins dur. C'est ça,
bon, exactement.
Et t'en attends moins. Et le début du 5 est super. Et je me suis dit, mais quel est le point commun de tout ça? Ben, c'est les nazis. Et je crois qu'en fait, ce qu'on aime. C'est voir Harrison Ford face
défoncer des nazis.
Ouais. Non, mais parce qu'en fait, c'est un magnifique casseur de nazis. Et c'est en fait, les nazis, là où ils sont fabuleux, c'est que c'est en même temps, évidemment, les pires du monde. Et en même temps, c'est une espèce de truc où les mecs s'intéressent à l'art, ils veulent absolument avoir. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un univers génial. Les nazis qui veulent des œuvres d'art. Et lui, qui est une espèce de mec, c'est le gentil. Et en fait, cette confrontation-là, elle est magnifique. Et en dehors de ça, je trouve que c'est moins fort. Et en plus, moi, juste pour finir sur le 5, les années 70, c'est très sympa. Mais en fait, au bout d'un moment, tu ressors, tu dis, mais si t'as pas la nostalgie, tu vois juste un vieux monsieur avec une nana, une gamine qui court après le truc. Et c'est plus pareil. Mmh. Alors que quand tu le vois, c'est horrible à dire, mais alors que moi, c'est pas mon délire, mais la version où il est refait en jeune, mais tu kiffes, ouais. Tu kiffes. T'as un truc de jouvence et après, tu fais, bon, oui, c'est pas un mauvais film, ils se font chier à trouver une idée avec Archimède et tout, pourquoi pas. Mais t'es dans autre chose en fait. Et moi, j'ai l'impression de revoir le 3 et le 1 dans le début du 5.
Bah, si ça avait été que ça aurait été parfait.
Mais moi, j'avais bien aimé le 5. Et en plus, je l'ai vu dans des conditions qui sont inoubliables pour moi parce que je l'ai vu à 2 rangs de Harrison Ford au festival.
Oh, le mec, il se la pète! Non, mais
bien sûr.
Non, mais moi, j'ai vu le baltringue à côté de Vincent Lagaffe.
Non, mais juste pour vous dire que juste avant, il a pleuré en fait avant le film.
Mais Vincent aussi.
C'est ça que.
Et après. Et le box-office aussi. Pardon, je choisis.
Est-ce que t'as vu Thème avec Patrick Sébastien?
Mais mec, pardon, tu me demandes si j'ai vu Thème?
Ah, tu l'adores Thème?
Mais Thème, c'est mon film culte. Mais Thème, je le connais par cœur, les tartines d'abricot.
Au nom de l'amour absolu.
Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les fous, il y en a plus dehors que dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On lui arrache les cheveux? On lui coule les doigts? Mais c'est extraordinaire. Ce film t'aime. Mais je te jure, avec mes potes d'Action Secrète, on le connaissait par cœur. Par cœur. Et moi, par exemple, et c'était impossible de trouver une version machin de ça. Et ma compagne de l'époque, pour mes 40 ans, elle m'avait fait une surprise. Elle avait loué une petite salle de cinéma. Et elle avait réussi, grâce à mes potes, à faire aller voir Patrick Sébastien. Et j'étais le seul à avoir un DVD. Je suis le seul à avoir, en France, à avoir un DVD de Thème. Elle a fait presser à partir de du 36 mm, je sais pas quoi, un DVD de Thème. Je suis le seul en France à avoir. Même Patrick Sébastien n'en a pas.
Tu l'as fait signer ou pas ?
Je ne sais pas. C'est pas. Non, j'ai le DVD après. Non, mais je l'ai rencontré depuis après. Mais c'était marrant. Et quand tu lui en parles, il est totalement dans le déni. Mais ah ouais, c'est ce film est incroyable. C'est quand même l'idée de dire un mec a violé une nana. On va aller faire être amoureux l'un de l'autre pour c'est fabuleux. Non, mais ce film, en fait, c'est trop compliqué d'en parler tellement il est génial. Thème, c'est. Non, mais tu m'as dit ça au hasard ou pas ?
Oui, au hasard, ouais.
Ah non, mais c'est pas possible. C'est pas possible.
Tu l'avais déjà dit en interview ?
Non, jamais. Thème, c'est incroyable. Okay. Thème, c'est fabuleux. Toutes les répliques sont dingues.
Ah, j'adore.
Tout est fou.
Le dernier film que tu as vu via une plateforme ?
Alors, c'est intéressant, forcément. C'est un film avec Nicolas Cage. Incroyable. Alors, je sais pas si c'était un film de plateforme, en tout cas, j'ai vu. C'est où il est chasseur de bisons.
Ah, je l'ai pas vu.
Ah, je l'ai pas vu encore, mais il est sur Michael.
Ah, j'ai adoré.
Ouais.
J'ai adoré l'atmosphère.
Ah ouais, c'est cool.
J'aime bien.
Très bien. Bison, ouais. La dernière série que tu as regardée ?
Alors, la dernière série, c'était justement avec Gary Oldman là, sur les.
Slow Horses. Ouais.
Et là, je suis sur Fargo saison 5. Je suis. Tout excité.
Déjà. Pas mal. La dernière chanson que tu as écoutée ?
Alors, pas pour le boulot alors. écoutez, alors c'est compliqué, je vois le plus petit. Je crois que la dernière que j'ai écoutée, c'est Gentle Spirit de Jonathan Wilson. 100 blowing up in the headlines. We've seen it all before. The powers are killing the pauper. Some idea of God, whoever. Le dernier livre que tu as lu ? C'est Joël Dicker, Le mystère de la chambre 400. J'en ai plus le numéro. Okay. Joël Dicker, extraordinaire. Je pense qu'il devrait être adapté en série. C'est prévu parce que c'est incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez
un peu.
C'est le Suisse là, qui fait des. Franchement, c'est bien branlé. C'est fort.
Le dernier jeu vidéo auquel tu as joué ?
Alors je vais enlever. Non, mais je joue beaucoup.
Ouais.
Je vais enlever le Tintin que je joue avec mon fils, qui est quand même très mal fait.
Ah, il est pas bien le Tintin.
C'est de la PS4. On dirait que c'est quand même la PS1, quoi.
Ah, merde.
Moi j'ai une PS4 hein, personnellement. Et sinon, je m'étais refait tous les Uncharted.
Ah, moi aussi, je fais ça il y a 3 mois.
On en parlait tout à l'heure. Ouais.
Mais vivement un 5, vite un 5.
C'est incroyable.
Et j'ai repris autant de plaisir. Ah ouais. À le refaire.
J'ai tout refait.
C'est trop bien. La dernière BD que t'as lue.
La dernière BD que j'ai lue, c'est pas vieux, c'était L'Or des Belges.
Ok. Voilà. Tu connais Aurélien ? Parce qu'Aurélien est un spécialiste BD.
Alors, c'est belge. Hein. Donc, c'est
ouais,
très,
j'adore.
C'est très belge.
J'adore les Belges.
Et juste avant, j'avais lu Ostende. Ah, okay. Je suis très belge. Très belge.
Le dernier objet culturel que tu as acheté ?
Alors, attends, objet culturel...
Ça peut être un t-shirt, mais vraiment un truc lié à la musique ou au cinéma, ou tu vois, ce genre de choses.
Alors, j'ai acheté un disque collector il n'y a pas si longtemps de Bruce Springsteen pressé au Japon de l'époque de la sortie, celui avec le foulard. Là,
pas mal. T'as déjà vu Bruce Springsteen en concert ou pas ?
Jamais.
Putain, moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est incroyable. L'énergie qu'il donne, c'est fou.
Le boss.
Moi j'ai bossé au Stade de France il y a bien longtemps et je couvrais les événements du Stade de France. Et j'ai assisté au concert de Bruce Springsteen 3 soirs d'affilée. Et ça a duré à chaque fois 5 heures.
Mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, à chaque fois, il en rajoute pour les fans.
Ah, tu deviens ouf.
Mais genre dans le bon sens du terme.
Bah non, parce que la première fois c'est génial, deuxième fois oui. Bon, voilà, troisième fois.
Ah ouais, mais tu penses au parking, c'est payé à
l'heure. en plus.
Et enfin, dernière question, le dernier artiste que t'as suivi sur Insta. Dernière personnalité que t'as suivi sur Insta.
C'est Neymar. C'est Neymar. Je suis très peu les gens sur Insta, mais Neymar. Neymar, j'adore. Parce que c'était sa croisière, la croisière de Neymar. Le mec, il avait une jambe dans une espèce de botte, tu sais, pour blesser, et il dansait. Ah, fetch! Putain, j'ai envie d'être son pote, moi.
Avec les toys, tu aimerais être un toys?
Mais oui, mais bien sûr! Mais je veux être un toys! Je veux être un toys de Neymar, moi.
Ce podcast est désormais terminé. Merci, Julien, d'avoir
merci
été là.
Merci à vous, c'est passé trop vite.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu?
Alors, écoute, justement, les réseaux sociaux, je me suis lancé dans les réseaux sociaux.
Oui, parce que les gens attendaient ta présence sur les réseaux sociaux, oui. Tu n'étais pas là. Tu sais qu'il y avait un type qui s'appelle Super Casar sur Twitter, ouais. Moi au départ je pensais que c'était toi. Tu vois.
Non, oui, alors au début il était très sympathique comme garçon, donc on avait plutôt des bons rapports. Et puis depuis que ça a marché un petit peu et que moi je suis venu, bah, il m'a un peu ghosté, il fait un peu le mec. Donc okay. il a changé de nom, tout ça. Bah, pas de soucis, j'en ai rien à cirer, tout ça. Mais, non, mais c'est beau, ça me dérange pas du tout. Je m'en fous. Non, en fait, moi, ça m'intéressait pas les réseaux sociaux dans le sens où moi, discuter avec les gens qui me viennent me sucer ou pas, je m'en fous. Enfin, tu vois, c'est un tout à l'ego quand même beaucoup, surtout Twitter. Pour moi, c'est un truc de tout à l'ego. Il y a des mecs qui s'insurgent d'être insultés. Je dis oui, mais quand un mec te dit t'es génial, t'es vraiment génial ? Non, mais tu vois, par exemple, j'ai des potes, je leur dis mais
c'est une bonne réflexion ça.
Mais non, mais quand un mec te dit ah, t'es génial, je dis non, mais Michel-Ange, oui, il y a des gens géniaux.
Bah, tu sais, parfois, il y avait une expression comme ça qui revenait, c'est oh, génie, c'est un génie.
Voilà.
Pas tant, moi, on n'est pas tous des
génies.
Moi,
le peu de fois, on m'a dit ça, je dis mais en fait, t'es mon idole ! Je dis mais mec, moi, mes idoles, c'était les Beatles, c'était des gens enfin qui avaient fait les... enfin tu vois non Robert De Niro mais pas moi je fais des blagues sur le foot, tu m'aimes bien, ça me suffit, tu vois, arrête-toi à ça, tu te sens pas obligé d'en sur parce qu'en fait c'est aussi une manière d'exister, c'est que quand un mec tu le flattes énormément, tu te dis que tu vas plus exister à ses yeux, c'est un truc un peu humain, tu vois, et sur les réseaux c'est pareil, juste tu dis à un mec je t'aime bien, ah je t'adore, coûte rien, donc je t'adore, t'es une pauvre merde, oh dis donc c'est abusé, oui, je t'adore, c'est abusé. Donc moi ça m'intéresse pas, donc j'étais pas sur les réseaux. Après moi là ce qui m'a intéressé c'est que ça soit Instagram ou même TikTok, aujourd'hui c'est des médias en fait, c'est les médias et ça te permet d'être un peu plus indépendant, c'est-à-dire que tu peux faire du contenu, c'est le mot qu'on utilise même aujourd'hui, tu peux faire du contenu et être juste indépendant, c'est-à-dire faire des choses et comme ça les gens ils viennent te voir, bah, et puis c'est comme si tu étais à la télé sauf que tu maîtrises ce média. Ce n'est rien d'autre qu'un média, voilà, un vecteur quoi. Donc moi je le vois comme un vecteur, un média je le vois pas comme un truc pour échanger avec les casous.
Donc t'es sur Insta là depuis combien de temps du coup
Mais pas longtemps, depuis septembre.
Septembre, voilà. T'es aussi sur RMC.
Oui, alors ça c'est bien parce que c'est beaucoup de boulot quand même, d'ailleurs c'est pour ça que je ne peux pas rester 8 heures avec vous, mais ça serait avec plaisir. Non, mais c'est beaucoup de boulot, mais c'est bien parce que ça t'oblige un peu tout le temps à être, tu vois, à produire, donc t'es plus ou moins bon, mais t'as une espèce de gymnastique, c'est intéressant, c'est un super exercice.
Est-ce que parfois t'es en manque d'inspi, justement quand tu dois écrire comme ça tout le temps, est-ce qu'il y a des jours où t'es...
Oui, ça peut arriver, après j'ai envie de te dire... Je ne compare pas, mais tu vois, par exemple, moi, dans mes meilleurs potes, il y a des anciens auteurs des Guignols. J'ai failli d'ailleurs en faire partie. Au moment où j'arrivais, Bolloré les a virés. Merci Vincent. Justement, ce mec m'en veut. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives à créer, entre guillemets, des rendez-vous, des gimmicks, des personnages, ça te permet justement de pouvoir les utiliser dans des moments où tu sais l'actu est moins, parce que c'est pas, il y a pas que l'inspiration, il y a l'actu aussi, t'as les actus géniales, t'as les gros creux, et là tu vas prendre des personnages, tu vas créer des univers, et donc résultat ça va te permettre en fait de toujours, je te dis, c'est en fait c'est comme un muscle, c'est-à-dire que plus tu le fais travailler plus c'est simple, et par exemple si je m'arrêtais pendant un an je pense que j'aurais je galérerais,
ouais.
Mais parfois, oui, c'est vrai que c'est plus ou moins difficile.
C'est Stephen King qui disait que lui, il
écrivait... Oui, on est pareil.
Ouais. Il écrit 15...
Des génies, quoi.
Il s'oblige à écrire minimum 15 minutes par jour, même s'il n'a pas de livre à écrire, pour garder cette gymnastique-là, justement.
Mais ce que j'admire chez Stephen King, c'est l'indifférence entre lui et moi. c'est que moi, j'aurais pas mis un clown. Mais bon, on s'est pris la tête plusieurs fois. Mais c'est que moi j'ai besoin, et c'est pour ça que je dis le rendez-vous radio est bien, c'est comme pour mes sketchs que je fais pour Winamax, c'est que j'ai besoin d'avoir des deadlines, j'ai besoin d'être poté au cul. En fait, je suis un énorme branleur. Alors, ma meuf, quand je lui dis ça, elle me dit mais comment t'arrêtes pas de bosser comme un débile.
Oui,
mais parce que je suis obligé. C'est-à-dire que je dois rendre un truc. Et si je ne dois pas rendre un truc.
Toi, tu faisais tes devoirs au dernier moment à l'école, toi, non?
Mais oui, quand je les faisais.
Tu fais tes valises au dernier moment avant de partir en vacances.
Mais carrément.
Bien sûr. On est fait du même bois.
Non, non, mais toi, moi et Stephen King. Non, moi, j'adorais, c'était Marlon Brando, car lui, c'était le boss. Marlon Brando, lui, faisait mieux. Il partait sans rien. Il achetait tout sur place,
oh,
il essaye, il repartait. Il dit, moi, je ne prends pas de valise avec moi.
Ah, c'est beau, ça. Ah, c'est la classe.
J'avais découvert ça parce qu'une fois, je suis parti au ski avec mes parents. Je vous raconte ma vie. Hein. Je suis parti au ski avec mes parents Et j'oublie ma valise. Je vais prendre ma valise et j'oublie ma valise. Et ma mère me dit, putain, t'as fait une Marlon Brando. Dis, bah ouais. Elle me dit, bon, bah, on va tout acheter. On a tout racheté au ski en plus. Hein, autant te dire que bon. Donc, on a tout racheté et puis on a tout laissé. Et puis c'est bon, c'est pareil.
Alors, les gens qui veulent t'écouter, donc t'es dans l'émission de Roten sur RMC.
Roten sans flamme. Tu peux l'écouter 18h45 et 19h45 tous les jours du lundi au vendredi ou en podcast, qui marche pas mal. Les gens, ils aiment bien comme ça. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Et ou alors après, je fais pas mal de petits sketchs un peu en mode guignol, tu vois, avec des personnages dans l'émission. Et je les mets en image. Les chansons, j'en fais des clips. Et les sketchs, je les mets en image sur mon compte Insta. Donc, tu as une plus-value. Allez sur mon compte Instagram.
D'ailleurs, j'en ai vu un sur ton Insta récemment sur le racisme d'avant. J'ai trouvé ça très, très drôle.
Ah oui, c'était, ouais. C'était la
dans le bar avec... dans le bar marseillais.
Ouais, ouais, c'était ouais. Dans, avec Cazo
et c'est ça.
C'était sur Je danse le Mia, on passe pour des six-tras. Ouais.
Très très drôle. Et est-ce qu'on a une chance de te revoir à la télévision? Est-ce que tu as envie de télévision à nouveau ou t'es bien à la radio?
En fait, j'ai pas spécialement envie de télévision. Pour moi, je te dis, c'est si tu me dis il y a une série machin tout ça ou n'importe, c'est comme envie de cinéma. Moi, si il y a un film qui est sympa, je pourrais le faire. Tu vois, oui. Mais en vrai, j'ai plus envie de théâtre, tu vois.
D'accord.
Si je faisais de la télévision, c'est parce qu'il y a un projet qui m'intéresse, qu'il y a une visibilité intéressante, et il y a un peu d'oseille, gros. mais sinon, ça me manque pas, je suis pas... déjà, moi, le vedettariat m'intéresse pas, déjà. Le côté people, le côté connu, je m'en fous complètement. Mon fils, ça le désespère, il veut que papa il soit connu. mais voilà. Mais non, parce que ça me manque pas. Non.
Ok, trop cool. Bah écoute Julien, merci d'être venu, c'était un plaisir de t'avoir merci aujourd'hui. Nous on se retrouve jeudi prochain. Les gars, ciao.
Salut.
Et salut tout le monde, bye.
Salut.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.